Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Didibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Puisque la solution existe.
Excellent Père de gloire, merveilleux Père, nous te disons encore merci. Il n'y aura jamais de mots assez forts pour te dire merci. Reçois toute notre vie, reçois notre joie, reçois notre foi. Reçois toutes nos actions de grâce, celles que nous pouvons exprimer, celles que nous ne pouvons pas exprimer. Merci Seigneur pour chacun de nous, merci pour notre pays, merci pour chacun de nous, merci parce que tu nous as inscrits dans le livre de la vie. Merci pour les choses merveilleuses que tu as déjà faites dans notre vie, merci pour les choses merveilleuses que tu es en train de faire. Merci pour les choses que tu vas faire Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur, reçois l'adoration. Nous t'invitons ici, tu as dit que tu te tiens à la porte, que tu es prêt à venir. Nous t'invitons ici Seigneur, sois le premier Seigneur, sois le dernier. Sois celui par lequel nous parlons, sois celui pour lequel nous parlons. Conduis-nous, Père Tout-Puissant, conduis-nous, Père Tout-Puissant, glorifie-toi ici, Seigneur. Que ce ne soit pas nous qui parlions, que ce ne soit pas nous qui agissions, mais que ce soit toi qui parles, Seigneur. Tu sais de quoi nous avons besoin, parle à chacun de nous, édifie-nous, encourage-nous. Donne-nous de puissantes révélations et conduis ton peuple, Seigneur. Restaure-le, donne-lui des rémas, des paroles qui le transforment, des paroles qui le restaurent, des paroles qui l'équipent, des paroles qui l'outillent et qui le font entrer dans une glorieuse destinée au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Merci Seigneur parce que tu fais du bien à ton peuple. Merci Seigneur parce que tu fais des miracles dans les vies ici encore. Et que ceux qui sont ici, tu mets la différence entre eux et les autres Seigneur. Mets une différence entre nous qui te servons, nous qui ne te servons pas. Donne-nous d'être bâtis, d'être édifiés, d'être construits à la gloire de ton nom. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait, tu l'as encore fait, tu le fais toujours. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors comment allez-vous? On va entrer dans le vif de notre sujet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu hier qui ne sont pas encore au tableau? Alors, vous avez vu les documents qu'on vous a donnés. Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler hier en détail. Ce n'est pas forcément des documents comme vous avez pu le voir où tout est expliqué. Gagner des âmes, c'est une guerre spirituelle. Donner aux gens la grâce de rencontrer le Seigneur. Donner aux gens la grâce de se reconnecter à Dieu. De se réconcilier à Dieu, ce n'est pas un acte banal. C'est un acte de guerre. Il faut bien que vous compreniez ça. Ce n'est pas un acte de paix. C'est un acte de guerre contre Satan. Jésus nous dit d'ailleurs que on ne peut pas arriver dans la maison d'un homme fort et arriver à le déposséder de ses biens et de ses propriétés sans l'avoir préalablement lié. Quand vous priez, quand vous évangélisez, quand vous parlez à une âme, pour qu'elle vienne au Seigneur, vous êtes en train d'essayer de voler à Satan une de ses âmes, un de ses prisonniers. Si j'ai des prisonniers, j'ai fait la guerre, j'ai eu des prisonniers, je ne vais pas être en train de dormir pendant que vous venez vider ma prison. Pour venir chercher un prisonnier, il faudra faire une opération commando. Il faudra d'abord me désarmer, moi, avant de prendre mes biens. Si vous ne prenez pas autorité sur les esprits qui tiennent les vies, sur les esprits, sur les géants spirituels qui ont autorité, qui gardent captifs les gens, vous n'allez pas avoir la grâce de toucher leur cœur. Vous devez assujettir les esprits qui tiennent les gens dans le monde pour avoir de la facilité à les libérer de la prison spirituelle. Et dans tous les cas, l'acte de l'évangélisation, l'acte de donner aux gens la bonne nouvelle, l'acte de délivrer les gens, l'acte d'ouvrir les yeux aux gens, l'acte d'être le sel et la lumière du monde, est un acte de guerre contre Satan. On l'a vu hier, une église, une famille chrétienne, des chrétiens, c'est une base militaire de Dieu pour faire la reconquête de la terre. Donc, vous ne pouvez pas être en guerre, vous comporter comme si vous étiez sur un terrain de paix. La guerre, c'est la guerre, on s'y comporte comme en guerre. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a dit qu'il est venu pour opposer les pères à leurs enfants, les maris à leurs femmes. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi? Ce n'est pas qu'il est venu pour créer les désordres dans les familles. Non, quand même. Jésus ne vient pas en disant ma mission, c'est de créer les désordres dans les familles. Mais quand tu vas commencer à annoncer la bonne nouvelle, quand les gens vont ouvrir les yeux, tu peux ouvrir les yeux. Ton père refuse d'ouvrir les yeux. Il vient de rentrer en guerre avec toi. Si toi, tu as l'esprit de Dieu, tu ne vas peut-être pas le combattre. Mais dès que tu découvres Dieu, lui, il n'a pas découvert. Il y a un fossé entre vous. Ça va arriver entre mari et femme parfois. Ça va arriver entre père et enfant. Ça va arriver entre amis. Il dit, je suis venu apporter la guerre. C'est ce que Jésus dit. Ça ne veut pas dire qu'il est venu pour tuer les gens. Il est venu pour apporter la guerre contre Satan afin de libérer les gens. Quand quelqu'un est encore prisonnier de Satan, il est utilisé par Satan. Il va te combattre, toi-même qui veux le délivrer. Le plus souvent, quand vous voulez sauver les gens, c'est ceux que vous voulez sauver qui sont les premiers à vous persécuter. C'est une loi de la vie. Ceux que vous voulez délivrer sont toujours les plus agressifs envers vous. Pourquoi? C'est ce que Jésus dit quand il dit, si la graine de ton mentir ne meurt, elle ne peut pas porter des fruits. Un père doit subir les assauts, les outrages, les arrogances et parfois les méchancetés de ses enfants quand ils sont adolescents. Et pourtant, il est en train de les éduquer pour leur bien. Quand une femme est en train d'accoucher, au moment où elle est dans le travail, elle souffre tellement qu'elle va gifler la sage-femme, elle va l'insulter, elle va lui donner des coups de pied, elle va la traiter de tous les noms. Alors que la dame est en train de lui faire du bien. Si la dame dit, ok, débrouille-toi, elle va mourir, son enfant va mourir. Mais pendant qu'elle souffre là, elle va faire subir tout ce qui est inimaginable à la sage-femme. Mais que l'enfant sorte, c'est elle qui va embrasser la sage-femme la première. Si une sage-femme n'est pas capable, quand la personne est en train de lui donner des coups de pied, de l'insulter de tous les noms, de la traiter de tous les noms, ou bien quand tu as son mari, elle est en train de souffrir, elle t'essuie, elle traite tous les noms, tu dois savoir que c'est la souffrance, c'est la douleur de l'enfantement. Parce que Paul dit, j'ai subi les douleurs de l'enfantement pour vous. J'ai subi les douleurs de l'enfantement spirituel pour vous. Quand vous décidez d'aller arracher des hommes des armes à Satan, vous croyez que Satan dort? Satan va utiliser les personnes que vous voulez délivrer pour vous offenser. Si vous n'êtes pas un vrai chrétien, quand vous offensez, vous fâchez, vous les laissez. Quand vous les laissez, Satan dit, c'est tout ce que moi je voulais. Maintenant, tu m'appartiens encore. Mais si vous connaissez la parole de Dieu, vous savez qu'il n'y a pas de mérite à aimer celui qui vous aime, que le mérite c'est d'aimer ceux qui te font du mal. Cela fait que quand quelqu'un te persécute, tu l'aimes. Quand tu l'aimes, tu veux quand même l'arracher à Satan. Tu oublies l'offense, tu le sauves. Parce que Satan va faire en sorte que celui que tu veux sauver t'offense pour te décourager de le sauver. C'est pour ça que le chrétien ne peut pas s'arrêter aux offenses. Paul nous a dit, nous ne combattons pas contre les hommes. Nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang. Nous combattons contre les esprits qui les animent. Votre mari vous fait du mal. Votre femme vous fait du mal. En réalité, ce n'est pas lui. Lui, là, il est le qui a vie. Il est la marionnette d'un esprit qui l'utilise. Vous-même qui êtes là, des fois, vous piquez une colère. Vous faites des choses. Quelques instants après, vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça? Ou bien, c'est vous qui avez fait. Hein? Ça ne veut pas vous demander pourquoi vous l'avez fait. Ça veut dire comment vous l'avez fait. Il y avait une force autre que vous qui l'a fait. C'est quoi cette force-là? C'est un esprit qui vous a utilisé pour faire ce que vous venez de faire. Celui qui vous regarde va croire vous êtes méchant. À quoi vous n'avez pas compris pourquoi vous avez fait ça? Un instant précis, un démon vient prendre le contrôle de votre vie. Il amène votre voiture dans le décor et puis il s'en va. On dit, mais le gars, il dormait ou quoi? Tu ne dormais pas, c'est à ce moment, c'est pas toi qui avais voulu. Il faut savoir voir la différence, comme je dis toujours, entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce qui est visible dans la troisième dimension. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on sent, c'est ce qu'on entend, c'est les choses matérielles. La vérité est différente de la réalité. La réalité, c'est ce qu'on peut percevoir avec nos sens charnels. La vérité, c'est ce qui est. Quand on a demandé à Dieu comment il s'appelait, Dieu n'a jamais dit Jéhovah Jiré, Jéhovah Shalom, tout ça là. Ça, c'est des noms que les hommes ont donné à Dieu. Quand on demande à Dieu comment il s'appelle, il dit je suis. Point final. Ou bien, je suis. Il n'est pas quelque chose. Il est. Il est. Celui qui est ne se conjugue pas au passé. Il n'a pas été. Il est. Il ne sera pas. Il est. Il est tout au présent. Il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Il est totalement amour tout le temps. Il est totalement justice tout le temps. Il est totalement miséricorde tout le temps. Il est totalement omnipotent tout le temps. Il est omniscient tout le temps. Il est omniprésent tout le temps. Il est. Tout ce qu'il est là, il est. Quand on ajoute un qualificatif, c'est pour préciser qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous n'êtes pas. Oh, Dieu est. Je suis. La vérité est différente de la réalité. La vérité, c'est ce qui est. Et qui n'est pas toujours réel. Ce qui est réel n'est pas toujours vrai. Et ce qui est vrai n'est pas toujours réel. Ce qui est réel n'est pas toujours vrai. Et ce qui est vrai n'est pas toujours réel. Quand vous regardez mes mains, elles sont propres. Il n'y a pas de tache dans mes mains. Ça, c'est la réalité. La vérité, c'est que si vous mettez un microscope, vous verrez des microbes. La vérité, c'est qu'il y a des microbes. À la réalité, vous faites dire que mes mains sont propres. Quand vous allez au cocktail, vous mangez arachide, vous mangez cajou. Les experts ont prouvé que quand on met des microscopes dessus, il y a dedans du caca, il y a dedans du pipi. Pourquoi? Au cocktail, les gens vont aux toilettes, ils se lavent pas les mains, ils viennent manger. Ils décrosent des micro-caca, des micro-pipi dedans. C'est démontré scientifiquement, mais tout le monde mange. Vous prenez l'eau de la soleil, on dit que c'est propre. Installez un filtre dans votre maison, ça ne prend pas une semaine pour devenir rouge. La réalité, c'est de l'eau inodore, incolore, sans odeur, tout ça, c'est la théorie. La vérité, c'est plein de boue que vous buvez tous les jours. Quand quelqu'un est en joie, quand quelqu'un a des soucis, il n'y a pas de réalité qui le montre. Il peut être en train de sourire alors qu'il est sur le point de se suicider. La vérité ne se voit pas souvent. L'amour ne se voit pas, ne se touche pas. On peut en voir les effets, c'est comme le vent, mais on ne le voit pas. Les choses les plus vraies ne sont pas visibles. Et les choses qui sont visibles ne sont pas souvent vraies. Quand on regarde un film à la télévision, c'est misant, c'est de la mise en scène. Ce n'est pas la vérité, ce n'est que de la réalité. C'est des gens qui ont joué. Mais les hommes confondent toujours réalité et vérité. Quand une femme regarde un feuilleton et puis le héros ou bien la femme qu'elle aime bien dans le feuilleton, par exemple est malade ou est tuée ou quelque chose, vous allez voir les gens commencent à pleurer. Vous avez vu une femme pleurer à cause d'un feuilleton? Les gens jouent à la télé. Ils ont tellement fait bien leur mise en que vous avez confondu la réalité et la vérité et vous pleurez pour la réalité alors que les gens font au cinéma. La réalité n'est pas la vérité. Les hommes, c'est pareil. Des gens se poignardent, se tuent avec des bouteilles cassées après un match de football parce que quelqu'un a gagné, quelqu'un a perdu. Les gens sont en train de jouer, on les a payés pour jouer. Pourquoi vous vous tuez alors qu'on les a payés pour jouer? Parce que vous confondez réalité et vérité. De la même manière dans votre vie, vous mélangez réalité et vérité. La plupart des choses que les hommes disent pour faire mal, c'est la réalité. Ce n'est pas la vérité. La vérité a une seule source, Dieu. La vérité, c'est ce qui est. Ce qui est ne peut venir que de celui qui est, qui a tout créé. Quand je crée ma machine, c'est moi qui sais comment ça marche. Ce que je te dis est valable dessus. Tout le reste, c'est spéculation. Dieu a créé l'homme. Il vous dit comment ça marche. Ce que Dieu dit est vrai. Tout ce qui est contraire à ce que Dieu dit est faux. Et Paul nous parle des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et toutes ces bêtises qu'on nous apprend à l'école, qui tendent à faire oublier Dieu. Les gens ont du mal à croire à Dieu, parce que le cœur leur a appris une série de mensonges qui les empêchent de croire à Dieu. Par exemple, le cœur vous dit que quelqu'un ne peut pas être partout en même temps. Ce qui est faux, mon esprit peut être partout en même temps. Je peux penser à des choses qui sont aux États-Unis, en France, au Canada, en Chine, penser à mon passé, à mon présent, à mon futur. Mon esprit va où il veut. On ne peut pas emprisonner l'esprit. Alors pourquoi on me dit que quelque chose ne peut pas être partout en même temps? L'air n'est pas partout en même temps. La science nous dit que ce qu'on ne voit pas est faux. Est-ce qu'on voit l'air? On voit les ondes HM, on voit les infrarouges, on voit les trucs qui font l'échographie là, on voit les lasers. Pourquoi vous y croyez alors? Les fréquences des radios, les fréquences des FM, vous les voyez? Pourquoi vous y croyez? Parce que le blanc vous a dit que c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas croire à Dieu. Parce que ce n'est pas le blanc qui l'a dit. Idiot que nous sommes. Je ne vous incite pas, hein? Je nous dis la vérité. Il faut qu'on se réveille. Il y a de l'idiotie dans notre affaire là. La vérité ne se voit pas toujours. Et regardez bien, les vraies choses ne se voient pas. L'amour ne se voit pas, la douleur ne se voit pas, le chagrin ne se voit pas, la puissance ne se voit pas, l'onction ne se voit pas, les vraies choses ne se voient pas. Il faut être un imbécile pour croire qu'il n'y a que les choses visibles qui sont vraies. La vie se joue dans la quatrième dimension, la dimension invisible. Tout ce qui se passe dans la troisième dimension n'est que le reflet, n'est que la conséquence, n'est que la récolte de ce qui s'est passé dans la quatrième dimension. C'est comme quand vous regardez un film à la télé. Ce que vous voyez à la télé, c'est le film de ce qui s'est déjà joué dans un studio. Vous pouvez casser la télé, vous n'avez pas changé le scénario. Ce n'est pas à la télé qu'on a joué ça. Votre vie là, c'est la télé. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous réveillez tous les matins, vous pouvez vous battre, vous faites tout. Rien ne change. Ou bien, parce que vous vous battez avec l'écran de votre vie. Dans la troisième dimension là, il y a l'écran de votre vie. Quand tu te bats sur les réalités matérielles pour changer ta vie là, c'est comme si tu te bats avec la télé pour changer le feuilleton. Tu peux frapper un héros à la télé parce qu'il est en train de taper quelqu'un. Mais c'est comme ça que vous essayez d'affronter vos problèmes en vous battant avec la télé de votre vie. Évidemment, vous perdez votre temps, ça ne change rien. Pour changer ce qui se passe dans un film, en supposant que ça se tourne en direct, si c'est en différé, c'est déjà fini, il faut aller au studio où ils sont en train de tourner. C'est la quatrième dimension. Le règne dans lequel Satan d'un côté avec les démons et les sorciers et Dieu de l'autre côté avec les anges et les serviteurs de Dieu s'affrontent et se combattent. C'est dans ce domaine-là qu'on crée toute chose par le pouvoir de la parole et de la foi. Si quelqu'un n'a pas la capacité d'aller là, il est spectateur de sa vie. Les autres vont jouer sa vie, il va voir comment ça va se passer. Quand vous allez voir un féticheur, il a un esprit initié qui se connecte à l'esprit de Satan dans la quatrième dimension pour agir. Quand on dit les ans là, c'est une réunion des esprits. Ils se parlent entre eux, ils négocient votre vie. Quand un imbécile vient les voir pour dire je te donne le mouton parce que je suis malade, il va voir l'autre sorcier et dit mon frère, on est dans le même camp. Ce petit-là, Dieu m'a donné le mouton pour le sauver. Dans tous les cas, je sais qu'on va le manger. Donne-lui 2 semaines, il va guérir, il va dire que ça marche, il va manger son mouton. Le mois prochain, tu peux l'attaquer. Vous connaissez quelqu'un qui part chez les guérisseurs, les féticheurs, et un jour, il a réglé ses problèmes, il n'est plus jamais parti. On y va jusqu'à sa mort. Satan n'est venu que pour détruire, égorger, tuer. Si quelqu'un va chez un féticheur, il règle ses problèmes définitivement. Et dans ce moment, il n'a pas une autre raison d'avoir un féticheur qui vient me voir. Je vais lui donner de l'argent. Satan va faire le bien à qui? Pourquoi il s'appelle Satan? Et si le féticheur est définitivement au problème, il va manger. Il dit le petit, Dieu l'a donné un mouton. Il faut le laisser 2 semaines, ce n'est pas beaucoup. Quand il va causer que j'ai fini de le sauver là, tu peux le refrapper, il va venir encore une fois, encore manger. On va manger un peu. Comme ce soir, il n'y aura plus rien à faire, on va le laisser. C'est ça la réalité. Mais au lieu d'être l'esclave de ces gens-là, vous pouvez naître de nouveau. Vous pouvez, comme on l'a vu hier pour ceux qui étaient là, récupérer l'esprit de Dieu en vous, qui rend votre esprit capable d'aller dans la quatrième dimension, de régler vos problèmes vous-même dans la quatrième dimension, de commander les choses dans la quatrième dimension. Là où Asie dit, et c'est vrai, que dans la troisième dimension, il dit, on ne crée rien, on ne transforme, on ne perd rien, tout se transforme. C'est une vérité de la voisine, mais c'est une vérité appliquée dans la troisième dimension. Dans la troisième dimension, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Le plastique, là, l'homme n'a pas fabriqué. Il a pris du pétrole qu'il a trouvé dans la nature. Donnez-moi quelque chose que l'homme a fabriqué. L'homme n'a rien fabriqué. Il prend ce que Dieu a fait, il peut transformer. Mais l'homme n'a jamais rien fabriqué. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme dans la troisième dimension. Mais dans la quatrième dimension, Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière est. Point final, il n'y a pas de formule. Dieu dit bonheur, bonheur arrive. Quand je suis dans ma maison, je suis au pointeur chez moi. C'est ma maison. Quand je dis de l'eau, est-ce que j'ai besoin de faire une phrase pour dire tel va me chercher de l'eau? Si je suis dans ma maison, je suis le chef. Quand je dis de l'eau, celui qui doit se débrouiller pour l'eau arrive chez moi, se débrouille, mais l'eau arrive. Quand je dis de l'eau dans ma maison, ça vaut ordre à l'eau d'apparaître et l'eau arrivera forcément. À moins que je ne sois pas dans ma maison. Si je dis mes chaussures arriveront. Parce que je suis rouetant. Vous êtes bêtant dans le bain. Pourquoi vous ne pouvez pas commander au bain? Alors que quand le rouetant passe dans sa maison, les choses arrivent.
Vous êtes guetteur pour rien. Guetteur, maître de votre vie, maître de la vie, maître du monde. Vous ne pouvez même pas faire comme un fauteur. Quel fauteur dans sa maison fait des chapelets pour demander de l'eau? Il a besoin de supplier, de parler, de faire des discours pour demander que l'eau arrive. Il dit de l'eau arrive. Il appelle à la licence l'eau en appelant le mot l'eau. Oh, le nom de quelque chose de fait a une chose à l'appeler. Le nom d'une chose n'a une seule vocation. Appeler la chose. C'est pourquoi quand tu passes ton temps à dire il n'y a pas d'emploi, tu es en train d'appeler la situation de il n'y a pas d'emploi dans ta vie. Tu appelles à l'existence des choses que tu dis. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous allez voir les vieux, les gens très sages, ne parlent pas n'importe comment. Tout ce qu'on dit vaut comment dans la vie. Quand on est maître de chez soi, on appelle les choses se présentent. Si je suis au bureau, si je suis à Global, je dis de l'eau va arriver, parce que je suis maître. Mais si tu es fonctionnaire, tu es dans la fonction publique, dans ton bureau, tu dis de l'eau, tu vois, l'eau va arriver devant toi. Qui va t'amener de l'eau? Qui a ton service là? Tu ne verras pas de l'eau bien, parce que là-bas tu n'es pas prêt. Dans le bain, parce que tu es béton, tu as le pouvoir. Dieu a demandé à Job, quand Job faisait le malin, est-ce que tu as commandé à l'aurore? Est-ce que tu t'es réveillé un matin pour commander à la journée d'aujourd'hui d'être de telle manière au nom de Christ Jésus? Tu n'as pas fait, tu dis que c'est ma faute. Est-ce que tu as exercé le pouvoir que je t'ai donné? Les Josué ont arrêté le soleil pour combattre. Toi, tu as commandé quoi à la nature? Tu as commandé quoi à la montagne? Il dit, s'il y a une montagne, demandez-lui de bouger. Il y a une montagne, il dit, Seigneur, viens bouger la montagne. Où est-ce que tu as vu dans la Bible que Dieu a dit que quand il y a une montagne, de l'appeler? Où est-ce que c'est écrit? Il dit, s'il y a une montagne, parlez-lui. Il y a la montagne, vous appelez Dieu. Il dit, si quelqu'un est malade, qu'on lui impose la main, guérira. Il y a la maladie, vous appelez Dieu de le guérir. Est-ce que Dieu vous a demandé de l'appeler quand quelqu'un est malade? Ou bien vous a demandé de lui imposer la main pour qu'il guérisse? Pourquoi vous voulez faire les choses plus compliquées? On vous dit, appuyez le bouton, le coin va arriver. Vous appelez la SB pour dire que vous voulez la lumière. On dit, il n'y a pas de bouton dans la chambre. Non, il faut que la SB vienne m'allumer l'ampoule. Non, t'as dit d'appuyer l'interrupteur. Tu trouves ça trop simple. Mais les choses puissantes sont simples. Pourquoi vous cherchez des choses compliquées? Jésus dit, si le montagne se présente devant toi, vous avez tous des montagnes de problèmes, sinon vous ne serez pas là. On fait tout ça, non? Quand ça va bien, là, on ne s'occupe pas de Dieu bien. Donc si vous êtes là, vous avez des montagnes de problèmes. On fait ça, non? C'est pareil, on est tous pareils. Il ne faut pas avoir peur. C'est comme ça. Quand il y a une montagne de problèmes, là, Dieu dit, parle à la montagne. La montagne a des oreilles. Dieu a parlé, Jésus a parlé au figuier. Il a parlé à la tempête. Il parle aux choses. Les choses ont une oreille. Faites une expérience dans votre maison. Prenez du terreau. Prenez n'importe quoi. Plantez le même jour deux fleurs ou bien deux maïs ou deux, ce que vous voulez. Au même endroit. Vous les arrosez tous les deux le même jour avec la même eau. Vous touchez l'un, vous dites, toi tu ne pousseras jamais, tu es maudit, tu sécheras, tu ne donneras jamais de fruits. Et l'autre, vous le bénissez. Vous faites ça tous les jours. Vous allez voir si l'arbre ou la plante que vous maudissez là ne va jamais devenir quelque chose. C'est des expériences techniques. Jamais ne deviendra quelque chose. Pourquoi beaucoup d'enfants sont idiots? Leurs parents passent leur vie à leur dire qu'ils sont idiots. Tu es idiot, tu es taré, tu es bête. C'est de la prophétie, ça s'accomplit toujours. C'est pour ça que c'est criminel de dire à son enfant qu'il est bête. Ça vaut. C'est déclaration, c'est décret. Dieu appelle les choses en les disant. Tu appelles les choses à la vie de ton enfant, pas tu dis qu'il est bête, alors que tu passes ta journée à dire qu'il est bête. Si tu dis qu'il est bête, il peut être bête. Parce que Dieu a accompli ce que ta bouche a dit. Les Juifs ont dit, on ne va jamais arriver à rentrer à Jéricho. Il y a des géants. Dieu dit, je vous ferai selon ce que vous venez de dire. Point final. Vous n'avez jamais regardé bien. Il ne vous est jamais arrivé dans votre vie d'avoir un problème que vous n'avez pas dit. Si tu es au chômage, c'est sûr que tu dis tous les jours qu'il n'y a pas d'emploi. Tu n'es pas au chômage parce qu'il n'y a pas d'emploi. C'est parce que tu dis qu'il n'y a pas d'emploi que tu es au chômage. Je vais vous donner un exemple, la maladie. Personne ne peut être malade si on ouvre sa bouche, vous dit qu'il est malade. Nous disons toujours que nous sommes malades avant d'être malades. Toujours. Comment? Satan, c'est un metteur en scène professionnel. On appelle ça le père du mensonge. L'ange de lumière. Ou bien, c'est comme ça qu'on l'appelle, non? L'ange de lumière. Dans le cinéma, vous voyez, c'est avec les jeux de lumière qu'on fait les effets spéciaux. Quand on dit ange de lumière, c'est un beau nom. Ange de lumière. Ce n'est pas la lumière pour éclairer. Hein? C'est la lumière des effets spéciaux. Satan est un professionnel des effets spéciaux. S'il rentre en studio pour toi, oh, tu vas croire forcément. C'est un professionnel des effets spéciaux. On l'appelle l'ange de la lumière. Un ange est très puissant. Quand quelqu'un est un ange de la lumière, donc il faut lui laisser les effets spéciaux. C'est sa profession. Comment ça se passe? J'ai dit qu'il y a une différence entre la réalité et la vérité. Si j'ai mal quelque part, ça ne veut pas dire que je suis blessé. Je peux avoir mal, il n'y a rien. Quand je peux être blessé, je n'ai pas mal des fois. Quand je suis en train de faire du sport, par exemple, je peux me blesser, je ne sens même rien. C'est quand je viens voir la plaie que je commence à avoir mal. Pourquoi je n'avais pas eu mal quand j'étais blessé? Et c'est quand je vois la plaie que je commence à avoir mal. Je ne commence à avoir mal que quand je crois que je dois avoir mal. Quand tu cours, tu te blesses. Tu ne sens même parfois pas que tu es blessé. Mais dès que tu vois la plaie, que ton cerveau dit qu'il doit avoir mal, tu as mal. Quand un enfant est en train de jouer seul, il tombe, il se fait mal. S'il n'y a personne autour de lui, il ne pleure jamais. Jamais. Il pleure quand vous êtes là. Vous dites, ah, Ocho! Et il commence à pleurer. C'est vous qui lui faites faire du cinéma. Parce qu'il découvre quand il pleure, bébé, viens, viens, viens. Prends bonbon, j'ai de l'eau. Maman est là. Bon, qui n'en veut pas ça? C'est vous qui éduquez les enfants pour être des comédiens dans la vie. Donc, la réalité et la vérité. Ce n'est pas parce que j'ai de la fièvre que je suis malade. C'est vrai que la température moyenne d'un corps, c'est 37 degrés 5. Mais selon la température, selon la chaleur, selon la fatigue, le corps varie de température. Demandez à mon épouse, moi ça m'arrive tous les soirs. Elle me touche, elle dit, tu as le corps chaud. Je ne lui réponds même pas. Parce que qu'est-ce qui se passe? Votre cœur est légèrement tiède, j'ai le corps chaud, hein, et qu'il en dit pas ludé. Satan dit, viens de dire quoi, Seigneur? Tu as dit qu'il lui en sort selon sa parole. Applique-moi la dose. Qu'est-ce que tu as dit? Si tu es Dieu, tu ne peux pas te contredire. Il dit, lui en sort selon sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Dieu va dire, comme il a dit à Job, bon, applique la maladie, mais ne le tue pas. Tu ne peux jamais être malade sans ouvrir ta bouche. Vous avez la maladie que vous dites. Un chômeur partout sont être malade. Pourquoi que moi j'ai le temps d'être malade? Les gars qui gèrent de l'argent, vous croyez qu'ils ont le temps d'être malade? Il faut être chômeur, il faut n'avoir rien à faire pour être malade. Il y a des gens qui parlent de maladie tout le temps, ils sont tout le temps malades. Vous voyez que les gens qui sont tout le temps chez un médecin, ils sont tout le temps en train de parler de la maladie? Il sent n'importe quoi, il dit qu'il a la maladie, il peut, ah, est-ce que ce n'est pas cancer, est-ce que c'est pas si finalement il l'a toujours? Parce qu'il ouvre sa bouche pour dire, c'est comme si j'ai. Dès que tu dis ça, tu viens de décréter ça. Tu viens d'appeler ça à l'existence. À l'opposé, tu sens une fièvre. Je balaie ça dans tous les cas. À la croix, Jésus s'est chargé. C'est une conjugaison passée de ma maladie. Donc, à moins que Jésus ne soit pas vraiment mort ou que Dieu soit mort maintenant sur son trône, je ne peux pas être malade. Satan, fous-moi le camp. Quand tu dis ça, tu crois seulement que tu l'as oublié. Tu oublieras même que tu as senti la fièvre, tu vas te rappeler, mais. Il me semble que j'avais un fièvre tout à l'heure, c'est déjà parti. Moi, ça fait des années que je n'ai plus bu de médicaments pour être comme maux de ventre, maux de tête. Quand ça a commencé, Satan, fous-moi le camp. Toi, tu sais très bien que tu ne peux pas rester là. Donc, j'ai dépassé le niveau que tu me blagues. Fous le camp. Je dis ça, c'est fini, hein. Je fais autre chose. C'est pas que je dis ça en commençant le surveil. Je fais autre chose. Et je me rappelle après que, il me semble que j'avais quelque chose qui voulait ressembler à mon théâtre. Ah, il est parti. Faites une autre expérience. Vous êtes dans votre chambre. Ça arrive souvent. Vous prenez le pied en marchant contre le lit. Vous dites, aïe. Et là, mais la douleur s'intensifie, tu as mal des joues. C'est de l'idiotie. Moi, là, ça ne m'arrive pas. Quand je me cogne le pied, demandez à mon épouse, je dis en même temps, je ne peux pas avoir mal au nom de Jésus. Fous le camp. Je n'ai pas mal. Ce n'est pas que je vais mal pendant quelques minutes. Je n'ai pas mal. C'est comme si c'est le truc anesthésien qu'on met là. Immédiatement, ça disparaît. Lui, là, il est là. Demandez-lui. Olive, raconte-leur qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital sur ta douleur. Si je parle, quoi que je mange, raconte-le avec ta bouche. Demandez-lui. Et il a fini. Non, le chantier, c'est une belle histoire. Je parle d'abord de la douleur. Ce qui s'est passé, tu m'as demandé qu'est-ce qu'on a mis dans ta bouteille de perfusion alors que personne ne s'est approché de la bouteille de perfusion là. Dis-leur. Alors, ils vont croire que je mens.
Bonsoir. Mon nom c'est Olive. J'avais beaucoup m'excuser, je bégaye un peu.
Tu ne bégayes pas au nom de Jésus, c'est ça que je vais te dire. Tu ne peux pas bégayer en présence de Dieu. Tu ne bégayes pas au nom de Jésus. Je réprime l'esprit de bégayement sur ta vie. Vous voyez?
Justement, justement.
Il entretient tous les jours le bégayement de sa vie. En décrétant avant chaque discours qu'il bégaye. Bon, c'est une parenthèse, là, ce bégayement est chassé. Parle maintenant.
Bon, je suis tombé du haut pour le bas et j'ai perdu connaissance.
Faut parler un peu fort, ils vont t'entendre.
C'est à l'hôpital que je me suis réveillé. Je ne savais plus tout ce qui se passait. Bon, subitement, j'ai vu le DG, il est venu. Il m'a dit de dire. Que Dieu me pardonne mes péchés, je l'ai dit. Et je ne fais que pleurer, parce que je ne savais pas comment ça s'est passé. J'avais envoyé un de mes apprentis prendre le niveau de la fenêtre pour pouvoir fisser. Il a pris, je l'ai renvoyé que ce n'est pas bon. J'ai envoyé le second, lui aussi il a pris. Je dis, c'est pas bon. Je suis parti moi-même monter, prendre le niveau pour la fenêtre. Puisque c'est la façade de la maison. Je ne veux pas qu'il y ait d'erreur de ce côté. Après avoir pris le niveau, je voulais contourner. C'est là que le bois a cédé. Je me suis retrouvé par terre. Je me demandais à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, à la présence de Dieu, je me dis de ne jamais dire ça. Et je continuais à pleurer. Il a dit de dire à Dieu de me pardonner mes péchés. Quand je l'ai dit, à un moment donné, il a prié pour moi. Je me rappelle très bien qu'il m'a passé l'appareil. Quelqu'un aussi m'a prié. Et j'avais pris des sérums. Subitement, je me suis retrouvé. Que Dieu me pardonne d'abord. J'ai dit à que, qu'est-ce que c'est le médicament qui m'ont prescrit ça, qui travaille. Déjà, j'ai vu comment je suis ingrat envers Dieu.
Il se tordait de douleur. On devait lui faire une radio, il ne pouvait même pas bouger.
Je ne parlais même pas.
J'ai dit, la douleur, je te donne le foutre de camp. Il n'a plus mal, lève-toi. J'ai encore les photos dans mon téléphone. La douleur a dit ça, il s'est assis. Il finit sa soirée, il dit, mais est-ce qu'en temps, on a injecté quelque chose dans ta bouteille de perfusion? J'ai un grave, on n'a pas trouvé ta bouteille de perfusion. J'ai chassé par la puissance de Dieu l'esprit de la douleur parti, tellement qu'il a demandé s'ils ont injecté quelque chose de nouveau dans la perfusion. Il l'a demandé lui.
Et maintenant,
demandez-lui la suite aussi. Comment il a dormi à l'hôpital, il a porté plate alors qu'il ne devait pas porter plate. Demandez-lui aussi.
Et maintenant, tellement je me suis retrouvé, j'étais content.
Non, je vais raconter pour l'aider, il est timide. Quand on a fait la radio, parce qu'il était tombé, il devait, sa tête saignait, on a fait, ça ne saignait plus, ils n'ont retrouvé aucun problème à la tête. Quasiment que des égratignures. Le truc où il y avait glou et tout ça. Hein. Ils ont fait la radio de tout le corps, rien. La dame qui a fait la radiologie m'a dit, j'ai vu une infime fracture au niveau de la cheville. Mais il n'y a rien, là, il peut rentrer. Il y a des gens qui vivent avec des choses, ça va se restaurer tous les jours, tout seul. Quand nous nous blessons là, médicaments par médicaments, ta peau repousse. Qu'est-ce que même les gens font pour les os? Ils les mettent ensemble et ils laissent Dieu les coller. Est-ce que quelqu'un rentre une colle entre les os? Quand tes cheveux, tu les coupes là, c'est toi qui les fais repousser? C'est toi qui fais repousser tes ongles quand tu les coupes? Pourquoi quand on dit que quelqu'un a perdu ses ovaires, ça ne va pas repousser? C'est toi qui fais repousser les cheveux? C'est toi qui fais repousser les ongles? C'est toi qui fais repousser la peau? C'est toi qui fais repousser la chair? Pourquoi vous croyez que Dieu qui fait repousser ça tous les jours, qui fait naître les gens minuscules comme un spermatozoïde devenir géant là, ne peut pas faire repousser un organe qui est défectueux? Si vous n'êtes pas, excusez-moi, idiot, en disant que vous êtes scientifique. Donc, ils m'ont dit, il peut rentrer. Je suis parti voir l'infirmière, j'ai dit, lui là, il rentre. Et il était capable de rentrer. Il n'était même pas entré sur le chantier. La dame me dit, est-ce que vous êtes prêt à signer? Je dis, moi, je signe au nom de Jésus qu'il rentre. S'il y a un problème, j'en réponds. Elle s'en va et revient avec une sorcière, élément de Satan, qui dit, vous là, vous écoutez M. Gribi, ce n'est pas ça vient, vous êtes tombé de 4 mètres, vous auriez pu mourir. Il faut vous mettre sur observation, hein. Un docteur va venir regarder si par hasard tout va bien, et si vous pouvez en mettre des plâtres. J'ai dit, d'accord. Au lit, vont faire quoi? Il dit, Je le regardais. Il commence à demander à la dame, bon, vous êtes sûr, le docteur va venir faire quoi? C'est l'histoire de Pierre. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, il a dit, mais est-ce que je peux? Jésus a dit, viens. Il marchait sur les eaux. C'était un miracle. À un moment, il a vu une vague. Il s'est arrêté, il a dit, c'est moi qui marche sur l'eau. Il a commencé à couler. Quand dans le miracle, vous vous arrêtez pour raisonner, vous coulez. Le miracle n'est pas une affaire de raisonnement. C'est une affaire de puissance. C'est la quatrième dimension. Ne regardez jamais un miracle dans la réalité. Vous n'avez pas à chercher à comprendre. La dame l'a effrayé. Ah, si vous partez, s'il y a un problème, si le docteur ne vient pas, on doit vous mettre sous observation. Tu as dit, Olivier, on va faire quoi? Il dit, bon, le docteur arrive à quelle heure? Elle était à peine 11 heures. Hein? Alors qu'elle était dans l'hôpital, il respirait à peine. La dame dit 18 heures. Il dit, bon, on va attendre le docteur. Dès qu'il a dit ça, j'ai dit, écoutez, Jésus a fini de travailler. Moi, je m'en vais. Je vais le reste avec les docteurs. J'ai payé tout, je suis parti. Ça n'a pas manqué. La douleur a commencé à grandir. Le pied a commencé à s'enfler. Et finalement, le docteur est venu dire qu'il y avait une fracture importante. Il est venu lui mettre un plâtre. Et il est resté dans le plâtre et est sorti il y a quelque temps. J'ai dit, Dieu a voulu te donner une leçon. Il t'a démontré sa puissance. Il a voulu te montrer de quoi il est capable. Tu aurais pu mourir. Il a fait un miracle que tu as interrompu par incrédulité. La prochaine fois, ne réfléchis plus au miracle en cours. Tu aurais pu sortir de cet hôpital sans rien avoir. Le lendemain, tu marcherais, tu courrais. Tu as douté de Dieu, tu as regardé le médecin. Il t'en a été fait selon ta foi. Point final. Et c'est comme ça dans la vie tous les jours. Quand il y a un problème, quelque chose se passe, demandez à mes collaborateurs. Quand on vient me poser un problème, ce n'est pas la peine de paniquer. Confiez ça à Dieu, on en parle après. N'ouvrez jamais votre... Même quand on dit, j'ai un problème là, je dis, j'ai interdit à mes collaborateurs. Que personne ne vienne plus jamais me dire qu'il y a un problème. Il ne peut pas y avoir de problème global. Il y a une situation, il y a une solution, il y a un défi. Si vous dites qu'il y a un problème, vous avez décrété que la situation est un problème. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai des situations à régler. J'ai des circonstances à gérer. Ne me dites plus. Ne me prophétisez plus. C'est moi qui ai un problème. C'est vous qui créez le problème. Il y a un grand problème. C'est toi qui viens de créer un grand problème. Parce que tu as appelé à l'existence un grand problème. Votre vie est le produit de ce que vous dites. Regardez bien votre vie. Vous allez voir que vous avez comme un marteau et vous taillez votre vie avec vos paroles. Quelqu'un veut parler? Bon, j'ai une petite entreprise de BTP. Je dis, tu dis petite entreprise et tu pries pour dire que ça va grandir. Parce que tout le temps, dit que tu as une petite entreprise, dis après que tu pries pour Dieu la fasse grandir. Au nom de quoi ce que tu as appelé petit va grandir? Tu appelles la chose chien, ça va devenir chat demain? Tu as acheté un chien, la chose s'appelle chien, et tu pries tous les jours pour ça devenir lion, ça peut devenir lion? Quand tu appelles toi-même la chose petite entreprise tous les jours, pourquoi tu pries pour que ça grandisse? Quand les gens qui ont l'entreprise, j'ai une petite entreprise qui vend des cartes. J'ai un petit cyber, j'ai un petit, ce n'est pas de l'humilité, c'est de la bêtise. Alors vous me comprenez? Le pouvoir de la parole. Le pouvoir de la parole agit. Parce que Dieu est parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Lisez dans 1 Jean, Dieu a tout accompli par sa parole. Rien de ce qui a été fait par Dieu n'a été fait sans sa parole. Ce n'est pas la parole que Dieu crée les choses. La présence de vous et moi là, est-ce que je vous ai touché? Est-ce que j'ai jamais touché quelqu'un ici? Mais regardez l'effet que la parole qui sort sur vos vies. Ça peut tuer quelqu'un. Si je décide d'asseoir quelqu'un, de le convaincre qu'il vaut mieux mourir, il va mourir. Il va se suicider. On peut convaincre quelqu'un de se suicider en lui parlant. Comme tu peux guérir quelqu'un en lui parlant. Tu peux transformer une vie en lui parlant. Tu peux appauvrir quelqu'un en lui parlant. Les chrétiens sont pauvres parce que tous les dimanches, on leur apprend à se marier avec l'esprit de pauvreté. Par la parole. Oui. C'est un mariage avec l'esprit de pauvreté. Dieu aime les pauvres. Heureux les pauvres. Le royaume des cieux appartient aux pauvres. Avec ce genre de niaiserie, on fait en sorte que les gens passent tout le temps à fricoter avec l'esprit de pauvreté. Ils sont pauvres. Ils chassent l'esprit de richesse. Vous passez tout votre temps à insulter les riches. À être jaloux de riches. À dire que l'argent n'est pas bon. L'argent ne fait pas ci, l'argent ne fait pas ça. La Bible dit que il vaut mieux pour un homme vivre dehors que sous le toit d'une femme querelleuse. La Bible dit que Christ est l'épouse de l'Église. L'Esprit de Dieu est l'époux de celui qui est en Dieu. Tout esprit avec lequel vous allez est votre mari d'un point de vue spirituel. C'est pour ça qu'on parle des maris de nuit, des femmes de nuit. Quand vous vous laissez aller un esprit, c'est comme si cet esprit vous épouse spirituellement. De la même manière, d'après ce principe de Dieu, il vaut mieux pour un esprit s'éloigner de vous que de vous entendre vous moquer de lui. Quand vous passez tout votre temps à insulter les riches, à médire de la richesse, parce que vous êtes pauvre, vous cherchez comment devenir riche, vous insultez la richesse, mais vous êtes en train de vous moquer tout le temps de l'esprit de richesse. La Bible dit qu'il vaut mieux pour lui sortir de votre maison que de vivre avec vous. La plupart des gens sont pauvres parce qu'ils passent toute leur vie à mépriser la richesse, alors que secrètement ils souhaitent la richesse. Tu ne peux pas épouser un gars quand tu te moques de lui en public et quand tu le vois quelque part, tu l'insultes. Libanais voleur, tel voleur, ils ont volé, l'argent n'est pas bon, on ne peut pas tout faire. À quoi non l'air? Si l'argent te plaît, dis que l'argent te plaît, arrête d'être hypocrite. Et imite ceux qui gagnent de l'argent pour être riche. Ce n'est pas en insultant les riches qu'on devient riche. En insultant les riches, on devient pauvre. Parce que Dieu t'en fera tout selon ta foi. Vous êtes pour la plupart des hypocrites, des jaloux qui insultaient les riches au lieu de les imiter. Et c'est pour ça que vous êtes pauvres. Tant que vous n'avez pas vous repenti de ça, vous resterez pauvres. Dieu dit, si tu crois de ton cœur et tu confesses de ta bouche, on ne peut pas croire de son cœur que les riches sont des bandits et devenir riches. Ou bien, qui n'a jamais insulté les riches ici? Quand quelqu'un est riche, on ne sait pas comment il est devenu riche, on dit que cela ne peut être qu'un bandit. Comme vous n'allez pas être bandit, Dieu ne vous rendra pas riche. On vous jugera comme vous jugez les autres. Mais quand c'est un pauvre, ah oui, on est content des pauvres. Quelqu'un en derrière, tous les baignoires sont avec lui. Quelqu'un se marie, tu ne verras pas un baignoire. Il y a un baptême, tu ne verras pas un baignoire. Quand il y a un événement, tu ne verras pas un baignoire. Mais quand le gars est mort, on n'a plus rien à faire pour lui, vous êtes tous là. Que les morts aient enterré les morts. Il faut être mort spirituellement pour s'intéresser à la mort et non à la vie. La mort, la mort, la mort. Quand quelqu'un est pauvre, on est content d'être avec lui. On va aller le soutenir dans sa pauvreté. Quelqu'un est riche, on est jaloux. Il faut être heureux pour la richesse des autres, pour que Dieu vous rende riche. Divorcer avec l'esprit de pauvreté. On en a parlé dimanche prochain, de comment on divorce avec l'esprit de pauvreté. Dimanche passé, dimanche prochain, ils expliqueraient comment se marier avec l'esprit de la richesse. Il marche à 19h pour ceux qui seront là. Bref, d'autres questions avant qu'on ne continue. Donc, suivez vos bouches. Quand on arrête un prisonnier, lui, les policiers, qu'est-ce qu'on dit? Attention, gardez votre silence ou votre bouche. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Dans le tribunal de la vie, avec Satan là, il garde votre bouche. Cherchant dans votre bouche, quoi retenir contre vous? Or, vous parlez n'importe comment. Satan trouve dans votre bouche de quoi vous maudire. Il y a des femmes qui aujourd'hui cherchent un enfant. Ils n'en ont pas eu. Pourquoi? Dans leur enfant, ils disaient, moi, je ne veux pas d'enfant. Un enfant, c'est trop compliqué. Il y en a qui ont ramené ses vies. Ils disaient ça en jouant enfant. Quand ils grandissent, ils ont oublié qu'ils disaient ça. Mais c'est des choses qui se lèvent spirituellement. Oui, moi, je ne veux jamais de garçon. Les garçons ne sont pas sérieux. Ça, c'est quand ils étaient enfants, ils disaient ça. Après, ils sont mariés, leur mari veut garçon. Ils font tout, ils ne trouvent pas. S'ils ne sont pas chrétiens, ils vont tout faire. Ils vont aller voir un féticheur, ils vont coucher un féticheur pour avoir garçon. Et c'est le diable qu'ils ont mis dans la maison. Mais sinon, quand Dieu vous aime, il va vous révéler. Attention, tu avais scellé quelque chose par ta parole. Tu avais dit si. Tu te mets à genoux, tu te repens, le sang de Jésus te lave et le problème est réglé. Tout simplement. Tout ce qui nous arrive, notre bouche. Par exemple, le Bénin. Regardez toutes les bêtises qu'on fait. Le niveau d'idolâtrie qu'on a. On est pire que Sodome et Gomorre. Dieu aurait dû frapper le Bénin. Je viens de découvrir, Dieu vient de me dire tout de suite quelque chose. Il dit, est-ce que je sais pourquoi je n'ai pas frappé le Bénin? Parce qu'à force de dire que Dieu aime le Bénin, vous profitez des choses qui me bloquent. Les Bénois n'aiment pas Dieu, mais pas sur la tête, Dieu aime le Bénin. Dieu vient de me dire, c'est ça qui me bloque. Parce que vous me bloquez par cette parole. C'est la seule bonne parole que vous dites. Vous voyez que c'est vrai? Je viens de recevoir ça en direct. Parce que je suis tout dit, mais Seigneur, tel que je te connais là, pourquoi tu ne l'as pas frappé? Et tu as frappé, je voudrais frapper tout le monde. Dieu vient de me dire, vous m'avez vous dites tout le temps que Dieu aime le Bénin. J'ai oublié de vous en faire selon votre parole. Mais qui aime bien, châtie bien. Et j'ai une mine. D'autres questions? Alors, on va aller à la question au tableau. Oui? Yann, le micro.
Vous avez dit tantôt que l'homme ne fabrique rien.
Oui. Il transforme les choses que Dieu a
faites. Moi, je pense
que... Ou qu'il ne crée rien. Ce n'est pas qu'il ne fabrique, il ne crée rien.
Ok, merci.
Il ne donne naissance à rien. Il transforme, mais il ne crée rien. Alors, le péché contre le Saint-Esprit. D'abord, je ne sais pas si je l'ai expliqué hier. Vous savez, j'ai fait toute la journée un séminaire à Port-Novo pour les pasteurs. J'en suis sorti, on a voulu directement arriver ici à 19h00. Donc, je ne sais plus ce que j'ai dit à chaque endroit. Bref, je vous ai expliqué hier que Jésus, c'est Dieu. Dieu, c'est Jésus. Et c'est le Saint-Esprit. Les trois sont une seule et même personne. Mais les trois ne se comportent pas de la même manière. Et on ne peut pas gérer les trois de la même manière. Si tu veux me poser un problème professionnel, tu es obligé de passer par Global, de rentrer dans la machine de Global. Tu vas y arriver, mais ça suit une procédure. Mais si tu me croises au club, à la fin, sans aucun rendez-vous, tu peux me parler là. Tu ne peux pas venir faire ça là, Global. Mais c'est la même personne. Si quelqu'un malin va te dire, si tu veux coincer Guidibi, va au club, un mercredi ou un jeudi, tu vas le coincer. Parce que la chance que vous avez ici là, venez à Global un jour, vous allez voir combien de temps il faudra pour me rencontrer. Mais je suis la même personne. C'est comme si ici, je suis Jésus. Vous voulez voir Edgar Guidibi, le meilleur chemin, c'est Edgar Guidibi, le formateur du club. Si vous décidez d'aller passer par Edgar Guidibi, vous allez écrire fatigué, vous allez attendre rendez-vous. Le jour où j'ai le temps, je vous reçois. Ça veut dire que Dieu nous indique que la manière la plus simple d'accéder à lui, c'est Jésus. Mais en même temps, je suis Edgar Guidibi, le DG de Global. Je suis Edgar Guidibi, le chrétien, le formateur. Je suis le papa d'Audrey. Je suis le mari d'Hermione et consort. Mais je ne suis pas la même personne dans ces différentes dimensions. Le comportement ou la personnalité du mari d'Hermione, ce n'est pas la personnalité du papa d'Audrey. Ce n'est pas la personnalité du DG de Global. Ce n'est pas la personnalité de l'ancien conseiller de Yahi. Ce n'est pas la personnalité du formateur chrétien. C'est la même personne, mais ce n'est pas la même personne. C'est des personnes qui, dans leur rôle, ont des logiques différentes, ont des tempéraments différents, ont des modes opératoires différents. Jésus vous dit que vous pouvez faire tout péché que vous voulez contre Jésus. Lui est venu pour prendre vos péchés, c'est normal. Mais que de ne pas vous imaginer que Ce que Dieu, dans son rôle, Jésus a toléré, Dieu, dans son rôle, Saint-Esprit va vous le pardonner. Lui, là, on ne blague pas avec lui comme ça. C'est la première leçon. Dieu, Jésus, c'est Dieu qui a pris tout l'amour de Dieu pour venir nous pardonner, pour venir nous sauver. Il est venu se faire homme, subir notre humanité pour pouvoir racheter notre autorité sur Satan. Cela étant, son rôle était d'être notre jouet. Il dit, vous avez fait beaucoup de choses. Maintenant, en tout cas, moi j'ai fini, je m'en vais. Mais il ne faut pas vous tromper et croire que Dieu, dans toute sa globalité, vous pouvez jouer avec lui comme vous avez joué avec moi. Hein. Et j'ai donné l'exemple. L'eau, la glace et l'air sont pareils. C'est l'air qui donne l'eau, c'est l'eau qui donne la glace. C'est trois formes différentes de la même chose. La glace, c'est l'eau, c'est l'air, même si les trois ne sont pas pareils. Si vous voulez en être sûr, prenez un glaçon, mettez au feu. Au début, ça devient de l'eau. Si vous continuez de chauffer, ça s'évapore complètement sous forme gazeuse, vous ne voyez plus rien. À l'opposé, quand vous mettez un congélateur, il n'y a jamais d'eau dedans. Vous le fermez, vous l'ouvrez, vous le fermez deux fois, de l'air en deux temps. Au bout de quelques jours, ça va se congeler, vous allez voir des glaçons sur les parois. C'est-à-dire que l'air se transforme en glaçon. Si vous le fondez, ça devient de l'eau. L'air, l'eau et la glace sont les trois formes d'une même personne. Tu ne peux pas attraper l'air. Ou bien, bon, l'eau, tu peux le toucher, mais tu ne peux pas l'attraper. Mais tu peux déjà le toucher. L'air, là, tu ne peux même pas le toucher. Mais le glaçon, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux écraser, tu peux casser, tu peux faire tout ce que tu veux. Jésus, c'est le glaçon. Vous voulez casser, vous voulez percer, vous voulez écraser, faites. Quand ça deviendra l'eau, parce que la parole de Dieu dit que Dieu est une source d'eau vive. Quand vous êtes en Jésus, des sources d'eau vive coulent de vous. Dans sa dimension eau, qui est un peu l'équivalent du Saint-Esprit, quand vous regardez Ézéchiel. Ézéchiel dit qu'il était dans le temple. Dieu lui a montré une vision. Au début, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles. Il marchait sans aucun problème. C'est l'onction. Quand l'eau est montée. Plus l'eau montait, si vous êtes dans cette pièce, l'eau monte, vous avez de plus en plus de mal à marcher. Quand l'eau arrive ici, si vous voulez vous déplacer, il vaut mieux nager. Quand vous n'avez pas d'onction, vous marchez charnellement, humainement. Plus l'onction monte en vous, plus vous perdez votre capacité à marcher charnellement, vous êtes obligé de marcher par l'onction, de marcher par l'esprit. Vous ferez des choses que les hommes trouveront fous, mais vous marchez par l'esprit, vous n'êtes plus dans la dimension des hommes. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand le Saint-Esprit monte en vous, c'est l'eau qui monte en vous, vous êtes obligé de nager. Et quand vous nagez, apparemment, on peut dire que c'est plus compliqué. Mais là, vous ne nagez pas, vous surfez. Dieu vous pousse dans ces vagues. Vous surfez sur la puissance de Dieu sans aucun effort. Au début, vous trouvez que quand même, si vous êtes dans l'eau, c'est plus simple de marcher que d'avoir des difficultés. Si vous êtes dans l'eau, quand vous voulez marcher, vous allez souffrir. Mais quand vous saurez qu'après tout, c'est de l'eau bénéfique, vous vous laissez aller. Vous allez glisser comme un scooter sur l'eau. Mais le glaçon, faites dans ce que vous voulez. L'eau, c'est plus compliqué pour vous déjà. Si l'eau, on te souffle un bon jet d'eau là, tu vas tomber, KO. D'accord? L'eau est déjà un peu plus dangereuse. L'air là, vous allez l'attraper par où? Tu ne sais même pas où ça commence, où ça finit. Dieu le Père, c'est comme l'air. Tu ne peux jamais le saisir. Tu ne vas même jamais le voir jusqu'à faire quelque chose avec. Si tu veux voir l'air, il faut guetter l'eau ou le glaçon. Si tu as manqué le glaçon, l'eau, il ne faut pas chercher à voir l'air. C'est les Ivoiriens, c'est Jean Gabou qui disait que si tu m'as manqué à midi, ce n'est pas la nuit que tu vas m'avoir. Bon, finalement, les amis, encore un autre midi. Mais ils avaient raison de dire, si tu m'as manqué à midi, ce n'est pas la nuit que tu vas m'avoir. Si vous avez manqué Jésus, glaçon, ça m'étonne que vous attrapez Dieu. Hey, guettez peut-être Dieu l'eau, le Saint-Esprit. Voilà, les gens appellent le Saint-Esprit quelque chose. Dieu n'est pas quelque chose. Hein. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Hein. C'est Dieu lui-même, dans sa dimension, qui interagit avec vous pour vous donner la vie. D'accord? Donc, le péché contre le Saint-Esprit, c'est d'abord une manière d'attirer notre attention sur le fait qu'il ne faut pas faire à Dieu tout ce que Jésus a accepté. Première chose. Deuxième chose, la Bible parle de certaines personnes qui sont nées de nouveau, qui ont découvert Dieu, qui ont découvert les réalités de Dieu. Dieu tient compte de votre âge spirituel. Ce qui va permettre à un bébé spirituel, il ne le permettra pas à quelqu'un comme moi. Quand vous ne savez pas certaines choses de Dieu, vous ne faites pas que c'est bon. Mais ce n'est pas le premier jour de sa vie qu'on éduque un enfant en lui refusant tout. Il y a des choses qu'on laisse passer parce qu'il n'est qu'un enfant. Mais il y a un âge où ce qu'on lui laissait passer hier, on ne lui laissera plus passer aujourd'hui. Il y a des choses que vous allez faire, Dieu ne va rien vous faire. Moi, je fais, il va frapper immédiatement. Parce que j'en sais suffisamment pour ne pas avoir d'excuses pour le faire. Le péché contre le Saint-Esprit concerne non pas les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se moquent de Dieu. On considère que c'est des bébés spirituels, Dieu leur pardonne. Un péché contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Non, moi je viens. Après tout ce que j'ai dit là. Peut-être parce que je ne sais pas pour quelle raison, peut-être un gars de la franc-maçon va proposer 10 milliards par exemple pour dire, il dit, le petit là, il est dangereux. La manière dont il travaille là, tous les gars vont finir par quitter nos trucs là pour retourner à Jésus. Mon petit, viens. Je suis prêt à te donner un marché de 10 milliards à l'ONU à condition que tu essaies de passer sur toutes les télés pour démontrer que Jésus n'est pas vrai, que c'est des bêtises. Et je dis, c'est vrai, hein? Bon, c'est pas grave. Je vais renier Jésus pour prendre les 10 milliards, après je vais demander pardon. Et je vais à la télé. Et je commence à démontrer que je n'ai pas Seigneur. Dieu dit que il n'y a rien que je puisse faire sur la terre pour me faire pardonner. Ça là, c'est l'enfer direct. Parce que j'ai humilié Dieu. Et parce que si je fais ça, des milliards de gens vont quitter Dieu. Ils ont dit, même Guy Dibi vient vous dire que Dieu n'est pas vrai. Après, tu es dans ce pays. Laissez, il n'y a rien dans Dieu. Si je fais ça, Dieu pardonne tout. Il a miséricorde. Mais il dit ça là, en te moquant de moi comme ça, je ne te le pardonnerai jamais, tu iras en enfer. C'est ça le péché qu'on te fait détruire. C'est la moquerie, c'est l'humiliation de Dieu consciente. Ce n'est pas le fait que, bon, quelqu'un a fait une prophétie, tu ne sais pas si c'est vraiment une vraie prophétie. Tu dis, est-ce que ça vient du Saint-Esprit? Ça, ce n'est pas le péché contre le Saint-Esprit. La Bible nous dit même que quand tu entends une prophétie, tu dois l'éprouver, la discerner, ne retenir que ce qui est vrai dedans. Ce n'est pas ça un péché contre le Saint-Esprit. Faire un péché alors qu'on a promis à Dieu de ne pas le faire, ce n'est pas un péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est une offense volontaire et consciente au Saint-Esprit en misant sur son pardon. Là, il dit, ça là ne passe pas, on se moque pas de moi. On continue. Alors, est-ce que la Sainte Cène est obligatoire? Écoutez, rien n'est obligatoire. Se dire bonjour tous les matins, ce n'est pas obligatoire. Dans un couple, vous embrasser, ce n'est pas obligatoire. Vous faire des cadeaux n'est pas obligatoire. Personne ne vous obligera jamais à communier avec quelqu'un. Mais si vous aimez quelqu'un, que vous avez la possibilité de communier avec lui, il faudrait m'expliquer plutôt pourquoi vous ne voulez pas le faire. La Sainte Cène, c'est quoi? C'est un rituel. C'est un cérémonial, c'est un repas symbolique institué par le Seigneur pour dire « J'ai été crucifié, mon corps à la croix pour vous. Par mon corps, j'ai brisé les œuvres de Satan sur votre vie. J'ai fait couler mon sang, le sang qui est la puissance, le sang qui est la vie, pour faire alliance de vie éternelle avec vous. C'est par mon sang que Satan a été vaincu. Si Satan veut vous intimider, rappelez-lui que moi, je l'ai déjà vaincu par mon sang, il va disparaître. » Il croit que vous ne savez pas. Et vous-même, vous oubliez. Mais si vous lui rappelez régulièrement ce que je lui ai fait, la Bible nous dit que Dieu a donné Satan en spectacle. Il a humilié Satan. Quand vous rappelez à quelqu'un vient faire le malin, c'est pas toi le voleur qu'on a monté à terre la dernière fois, il va partir tranquillement, il ne veut pas être honni par là. Donc, chaque fois que vous faites la Sainte Cène, l'une des choses que vous faites, c'est que vous rappelez à Satan. Regarde bien, ce pain-là représente le corps de Christ. Ce sang représente le sang de Christ. Ce vin représente le sang de Christ. Je les prends pour te dire que ce Christ-là, il est en moi. Je suis en lui. Je vis, maintenant c'est lui qui vit. Tu me vois comme ça là. Ce n'est plus le petit gars que tu voyais. Hein? C'est Christ même qui est ici. Et au cas où tu l'as oublié, ce sang-là te rappelle quoi? Il vaut mieux tracer. Parce que celui qui est en moi là, tu sais ce qu'il est capable de te faire. C'est l'un des sens de la Sainte Cène. L'autre chose, c'est que le sang de Dieu est la chose la plus puissante du monde. Il n'y a rien qui résiste au sang de Dieu. Il n'y a aucune force maléfique qui résiste au sang de Dieu. Quand Dieu voulait frapper l'Égypte, il a demandé qu'on mette du sang, encore c'est-à-dire que le sang des boucs, sur les linteaux des portes. Et quand l'ange de la mort a frappé tous les enfants, premiers-nés d'Égypte, partout où il y avait le sang, ils n'ont pas été frappés. Le sang de Jésus sur notre vie aujourd'hui, c'est ça qui est le bouclier. Quand Dieu, maintenant, comme au moment de l'Apocalypse, va vouloir détruire les gens, quand il voit le sang de Jésus dans ta vie, quand même Dieu est Dieu, il respecte son sang. Si ton sang est sur quelqu'un, c'est la signature. L'ange de la mort passe ça là. On appelle ça le sceau. Ça, c'est le nôtre. En consommant le sang de Jésus, en prophétisant le sang de Jésus sur toi, en t'aspergeant spirituellement par des déclarations du sang de Jésus, toutes mains sont un produit qui fait fuir Satan et tout puissant. Il cherche des naïfs, des ignorants à manipuler. Quand il tombe sur toi, on dit résister à Satan et fuir à l'eau de vous. Il voit que ce petit-là connaît la parole. Je dis n'importe quoi, me rappelle. Pourquoi je vais perdre mon temps sur un gars qui connaît son Dieu? Il vaut mieux que je le laisse pour aller m'occuper. Moi, un ignorant que je vais envoyer en enfer. C'est pas que vous comprenez. Si vous êtes un tueur, vous avez chez quelqu'un, il est trop fort, il faut se battre pendant une heure pour le tuer. Mais on n'a pas beaucoup de temps, j'ai 2 heures pour tuer. Laissez-le aller me trouver un autre imbécile qu'on va prendre plus facilement. Ou bien, quand vous résistez à Satan, il fuit. Parce que vous êtes en train de lui perdre du temps. La Bible est claire, il n'a plus beaucoup de temps. Il court afin d'en faire un maximum de victimes avant le temps convenu. Il est en rage. Quand tu lui résistes un peu, il fuit. Parce qu'il voit que tu es en train de lui perdre du temps. Il est venu, il a fait tenter Jésus trois fois. Jésus l'a balayé trois fois, il a disparu, il est parti d'abord. Quand il vient pour vous éprouver, si vous résistez, il partira. Et dès qu'il part, les anges de Dieu viennent vous bénir d'avoir résisté. Avant chaque grande bénédiction de Dieu, vient toujours une grande tentation de Satan. C'est une règle. La tentation de Satan précède toujours les grandes bénédictions de Dieu. J'en suis venu à même anticiper les bénédictions de Dieu aux épreuves. Et d'ailleurs, le mot épreuve veut dire quoi? Quand tu es à l'école, quand l'examen vient, c'est quand est-ce que l'épreuve te donne ton diplôme, quand tu sors de la classe pour te reposer. L'épreuve annonce que si tu la réussis, tu vas avoir le diplôme. Si tu l'échoues, tu vas souffrir. Et l'épreuve n'est pas un problème. C'est la clé qui t'annonce que bientôt tes souffrances vont finir. C'est pareil avec Dieu. Satan ne t'attaque que pour essayer d'intercepter une bénédiction qui arrive. Parce qu'il sait que si tu pêches, Dieu ne pourra plus te bénir, s'il est Dieu. Donc quand il voit la bénédiction de Dieu arriver, il essaie de courir plus vite, il veut te mettre le péché. Pour dire, tombe, tombe, tombe. Dès que tu tombes, Dieu change de direction à la bénédiction. Quand c'est comme ça, quand la tentation arrive, il faut faire un calcul de comptabilité analytique. Je gagne quoi dedans? Et je vais perdre quoi? Or, Satan étant méchant, il ne se fatiguera jamais à te faire chuter si ce que cela va te rapporter n'est pas trop grand par rapport à ce que ça va te coûter. Tu es là. Tu as fait beaucoup d'efforts pour sortir de la fornication, de l'adultère. Tu t'en es sorti. Tu as même changé ton numéro. Et subitement, une fille que tu as appelée depuis des années vient cadeau s'offrir à toi. Il faut dire, hé, loup, Satan veut intercepter quelque chose. Il faut fuir. Ça veut dire qu'une grande bénédiction arrive. Et Satan a cherché par quoi il va t'intercepter. Il n'a plus vu. Il est parti chercher la case fatale. La fille que tu as gardée pendant 10 ans, elle a dit non là. Il dit, bon, il n'y a que ça maintenant. Je vais lui mettre ça pour voir s'il peut rester. Tu tombes dedans là. Tu as perdu une bénédiction terrible. La taille de la tentation est proportionnelle à la taille de la bénédiction qui arrive. Le bac est l'examen le plus difficile. C'est celui qui est le plus important dans la vie. Et tous les jours, les gens perdent leur bénédiction parce que Satan intercepte les bénédictions par les tentations. Et ils tombent dans les tentations. On dit, c'est pas grave, c'est le péché. Je me suis repenti, Dieu va me pardonner. Il va te pardonner, mais la bénédiction ne reviendra plus. Elle a déjà passé. Elle est partie chez quelqu'un d'autre. Ah oui. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'on se moque de Dieu impunément? Si Satan s'occupe de vous, c'est parce que vous êtes sur le point d'être heureux. Et lui, son boulot, c'est d'empêcher ça d'être heureux. Si Satan voit qu'il y a rien, écoutez, tu vois un mendiant au bord de la route, qui s'assoit pour faire des plans pour faire mal à un mendiant? Vous avez vu des gens réfléchir à faire du mal à quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien? Qui s'occupe à faire du mal à un mendiant? Ou bien on voit un fou, qui va faire pour dire, comment je vais faire pour faire souffrir le fou là? Quelqu'un fait ça? Si tu ne représentes rien, Satan est trop intelligent pour gaspiller du temps sur toi. Si Satan s'occupe à te faire tenter par le mensonge, par la jalousie, par l'adultère, par la fornication, c'est qu'il voit que s'il te laisse, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Il essaie de te détourner. Regardez Jésus. Le gars jeûne 40 jours. Il veut entrer dans un mystère plus cher comme on l'a vu. Satan vient lui dire de, oui, il n'a qu'à se jeter sur l'eau de la montagne. Il n'a qu'à... Des foutaises comme ça. Et regardez bien. Chacune des demandes de Satan était un paillot de ce que Dieu s'apprête à lui faire. Dieu devait élever Jésus au-dessus de tout, comme c'est le cas aujourd'hui. Par sa mort, Satan dit, adore-moi Satan, je te donne tous les royaumes de la terre. Il te propose un raccourci malsain vers ce que Dieu a prévu. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas dire que c'est Dieu. Je te donne un exemple. Tu pries pour avoir de l'argent. Tu n'attends pas que Dieu arrive. Tu vois l'argent de quelqu'un, tu voles. Le Saint-Esprit te dit, tu es un voleur. Et tu dis, bon, il est écrit que Dieu permettra aux païens d'amasser pour nous bénir. Comme celui que j'ai volé, c'est un païen, c'est que c'est Dieu qui l'a béni. Imbécile, ça t'a menti. Il t'a menti. C'est comme ça. C'est-à-dire, il prend la parole de Dieu, il te transforme ça comme ça. Tu crois que c'est la parole de Dieu, tu tombes dedans. Il te convainc, ça t'a convainc les gens. Et tu vas dire, c'est Dieu, c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Si tu connaissais Dieu, tu lui répliqueras ce que Dieu a dit. Tu ne prendras pas le bien qui appartient à ton prochain. Tu ne comprendras pas le bien de ton prochain. Dieu n'est jamais tenté par le mal. Il n'aura jamais du mal pour faire le bien à quelqu'un. Et on n'a pas besoin d'aider Dieu à nous bénir. La bénédiction de Dieu vient. Quel que soit le besoin. Si tu connais Dieu là, tu vas reconnaître les mensonges de Satan. Si tu ne connais pas Dieu, Satan va te mentir. Vous devez faire attention à ces choses-là. Donc, au niveau de la bénédiction. Donc, la Sainte Cène, c'est un moment d'abord pour communier entre frères chrétiens. Un moment pour communier avec le Seigneur parce qu'il a dit, si vous demeurez en moi, et moi en vous, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Il y a deux manières, entre autres, de demeurer dans le Seigneur et le Seigneur en nous. La première manière, ce n'est pas la Sainte Cène. Quand vous prenez le corps et le sang de Christ, il est en vous. Et vous êtes en lui. Cela fait de vous et de lui un. Vous pouvez vivre par sa puissance. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Quand vous consommez la parole de Dieu, vous êtes en Dieu. Vous êtes donc capable de penser comme Dieu, de parler comme Dieu, d'agir comme Dieu. À ce moment-là, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. C'est une formule mathématique. Il dit, si vous êtes en moi, supposons, si A est inclus dans B, d'accord? Et B est inclus dans A, ça implique forcément que A est égal à B. C'est mathématique pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques. Jésus dit, si vous demeurez en moi, et moi en vous, si vous êtes A et que Jésus est B, ou si Jésus est A et que vous êtes B, si A est inclus dans B, et qu'en même temps B est inclus dans A, cela n'est possible que si A est égal à B. Si A est différent de B, A ne peut être inclus dans B, en même temps B va être inclus dans A. On est d'accord? Pour que A soit inclus dans B, que B soit inclus dans A, il faut que A soit égal à B. Jésus est donc en train de dire que si vous êtes égal à lui, tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Si vous êtes égal à lui, vous penserez comme lui, vous parlerez comme lui, vous agirez comme lui, et vous refuserez de faire ce qu'il ne fait pas. Si tu penses comme Dieu, tes pensées sont forcément exaucées sur les pensées de Dieu. Tu parles comme Dieu, tu as le pouvoir que Dieu a. Tu agis comme Dieu, tu fais ce que Dieu fait. Tu ne peux qu'être exaucé même si tu ne le veux pas. Parce que ta vie est la vie de Dieu. Dieu peut être en toi par la Sainte Seine. Il peut être en toi par sa parole. Il dit qu'on consomme la parole. Le temps que vous passez à consommer la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu, à connaître les lois de Dieu, sera toujours proportionnel à l'élévation de votre âme. Et vous allez prospérer et demeurer en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Les gens veulent passer de la pauvreté à la richesse du jour au lendemain. Non. Dieu dit qu'il faut consommer la parole de Dieu, il faut connaître Dieu pour que votre âme grandisse. Et que proportionnellement à la croissance de votre âme, vous allez être béni matériellement, vous allez être béni en santé. Cela veut dire que si quelqu'un n'a pas une âme qui a grandi, il ne peut pas être béni matériellement. Mais pour avoir une âme qui grandit, il faut croître en termes de connaissance de Dieu. Donc avant de vouloir être béni, il faut grandir en connaissance de Dieu, en apprenant Dieu, en étudiant Dieu, en obéissant à Dieu. On va faire un séminaire sur la Sainte Seine pour y revenir. Et de ce point de vue, est-ce que c'est obligatoire? Oui, si vous voulez obéir. Vous êtes marié à quelqu'un qui dit, je veux que nous mangeons ensemble tous les soirs. Pourquoi vous ne mangez pas ensemble? Il dit, porte ma bague, comme ça, on saura que tu es ma femme. Si tu passes quelque part, on va voir que ma femme va te fatiguer. Bon, si tu n'as pas de raison particulière de vouloir cacher que tu es son mari, ou que tu es sa femme, porte ta bague. Vous aimez quelqu'un. Vous dites que vous lui appartenez. Il dit de communier avec lui. Et vous demandez si c'est important de communier avec lui. C'est gratuit. On peut faire la Sainte Seine tous les jours. Moi, je le fais tous les jours. Et depuis que je le fais tous les jours, je vois bien la puissance. Parce que quand tu le fais tous les jours, il vit tous les jours en toi. Il est au maximum tous les jours en toi. Avant, je prenais des résolutions, je n'arrivais pas à les accomplir. Aujourd'hui, quand je prends des résolutions, j'arrive à l'accomplir. Parce qu'il y a sa force en moi. Parce que tout simplement, je prends ma Sainte Seine. Ça prend 2 minutes. C'est gratuit. Ça ne coûte rien. Où est le problème? Obéir à Dieu, on ne doit pas se demander si c'est indispensable. On doit se dire, mais si je l'aime et que ça ne me coûte rien, pourquoi pas? Mais évidemment, ce n'est jamais forcé d'accepter la puissance. On peut laisser la puissance. Ce n'est pas forcé. Que deviendront les chrétiens qui ont choisi la pauvreté? La Bible est claire. D'abord, ils vont souffrir, mais ça, c'est leur problème. Alors, ça, ce n'est pas le plus grave. Ils vont faire souffrir leurs enfants. Dieu dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisis la vie pour toi et ta postérité. Quand vous choisissez la pauvreté, vous êtes méchant parce que vous, ce n'est pas grave. Mais vous l'avez choisi pour votre postérité. La plupart d'entre nous sommes pauvres parce qu'on a toujours été pauvres dans notre famille. S'il y a un héritage de pauvreté dans ta famille, il y a beaucoup de dettes à payer à l'esprit de la pauvreté avant de sortir. Donc, si tu choisis la pauvreté, tu as condamné plusieurs générations après toi à la pauvreté, sauf miracle de Dieu. L'autre chose, regardez, Jésus a rarement maudit quelqu'un. À part les pharisiens, les scribes et consorts, qui étaient encore les hommes de Dieu qui racontent des bêtises, Jésus les a proprement insultés. Quelle est la chose que Jésus a maudit? À part le figuier. Regardez la colère que Jésus a manifestée sur le figuier. Quand Jésus a dit, mais toujours, pourquoi il s'est fâché comme ça avec un pauvre arbre? Ou bien, il n'avait pas faim, quoi qu'il avait faim de figuier, il ne pouvait pas trouver. Le gars produit la nourriture pour 12 000 personnes, vous dit qu'il avait faim à cause du fruit d'un arbre. Quelle est cette faim-là? Si Jésus a faim, il crée la nourriture, il mange. Le gars transforme l'eau en vin, vous dites qu'il a faim. Non, Jésus n'a pas fait problème. Il veut manger camembert, il va fabriquer camembert. Ce n'est pas parce qu'il avait faim. Le figuier devait porter du fruit. Dieu dit que si quelque chose qui est créé, qui doit donner des fruits, n'en donne pas, ça ne sert à rien qu'il existe. Il faut le couper. La Bible est claire, la cognée est la racine des arbres. Un arbre ne porte pas de fruits, on le coupe. Regardez la parabole des talents. Dieu donne à quelqu'un un talent. Talent aussi bien en termes de compétences, de savoir-faire, qu'en termes, c'était aussi le nom qu'on utilisait à l'époque pour parler de l'argent. Dieu te donne par exemple 1 million. Un imbécile a dit que bon, être riche est mauvais, il ne faut pas faire du commerce, nous avons fait vœu de pauvreté pendant qu'on boit dans les calices en or. Donc au nom de ce genre de stupidité-là, l'un d'entre eux est parti cacher l'argent. Pour dire ce Dieu-là, il va maintenant me demander où est son argent. Si je prends des risques, ça c'est pas bon. La Bible dit qu'il a gardé l'argent. Quand le maître est venu, il lui a redonné l'argent. Les deux autres, je crois que quelqu'un a reçu 3 talents. L'autre a reçu 5 talents. Celui qui a reçu 3 talents a fait du commerce. La Bible est claire. Avec, il a gagné 3 autres talents. Cela veut dire qu'il a fait 100% de profit. C'est ça que ça veut dire, hein? Parfait. Le cinquième, le troisième, 5 talents, il a fait 100% de profit. Pas le commerce encore. La Bible dit que le maître dit à ceux qui ont fait des profits, « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître et lui donne encore plus de biens. » Ceux qui ont fait 100% de profit, hein, on dit « Les chrétiens ne doivent pas faire du commerce, c'est imbécilité, va. » Qui a dit ça? Jésus dit « Je m'occupe des affaires de mon père, vous ne faites pas des affaires, c'est votre problème. » Tu as raison, on est abrutis. C'est vrai, ça tu viens de dire une vérité. Le seul qui n'a pas fait de profit, qu'est-ce qu'il a écrit? Méchant et paresseux serviteur. Jetez-le dehors, là où il y a des graissements de dents et le noir éternel, c'est-à-dire en enfer. Dieu a condamné en enfer un pauvre type qui n'a pas voulu toucher le million qu'on lui a remis. Il a maudit un pauvre homme qui n'a pas donné de fruits. Et dans Ecclésiastes 6, au verset 3, il dit que quelle que soit la durée de votre vie, même si vous avez vécu 100 ans, même si vous avez eu des milliers d'enfants, si le jour de votre mort, vous n'avez pas l'argent pour acheter votre cercueil, c'est à peu près 50 000 aujourd'hui. Or, on peut mourir à tout instant. Donc, si je te prends là maintenant, tu ne peux pas te fâcher sortir 50 000. Dieu dit que l'enfant qui est mort devant sa maman avant la naissance est meilleur que toi. Ecclésiastes 6, verset 3, livre, c'est la Bible. Toutes les versions, c'est la même chose. Dieu dit que celui qu'on ne peut pas prendre comme ça, il a l'argent son cercueil sur lui. Les Joseph d'Arimathie avaient l'argent de leur tombe. Ils ont acheté leur tombe de leur vivant. C'est pour ça qu'on a pu enterrer Jésus dedans. Les riches, vous voyez, quand les gens sont riches, ils font des caveaux familiales, ils payent d'avance les frais de leur enterrement, c'est-à-dire ils ont tellement d'argent qu'ils ont vécu et ils peuvent financer leur mort avant, ils n'ont pas besoin de faire cotisation, de demander à leurs amis de prendre bus pour venir à l'enterrement afin de leur faire des cotisations. Hein, d'accord? Dieu dit que celui qui, parce qu'on peut mourir à tout instant, on ne peut pas se fâcher, il donne 50 000, il va donner, que s'il était mort, ça aurait été mieux parce qu'il ne voit pas pourquoi il a fatigué sa maman à le mettre au monde. C'est Dieu qui dit ça, c'est écrit dans la Bible. Si Dieu dit qu'un avorton est meilleur que toi, c'est que Dieu dit qu'il ne voit pas pourquoi tu es né. Ou bien, regardez, les 3 cas, la sanction est quasiment la mort. Avorton, malédiction, il ne portera plus jamais de fruits, et enfer. Pourquoi Dieu est sévère comme ça avec la pauvreté, c'est la question. Parce que la pauvreté est un fruit de Satan. Lisez Deutéronome 28. Celui qui obéit à Dieu est béni. Celui qui vit dans la pauvreté est quelqu'un qui est maudit parce qu'il obéit à Satan. Si quelqu'un est pauvre, c'est que consciemment ou inconsciemment, il obéit à Satan. Dieu frappe ceux qui obéissent à Satan. Première raison. Dieu a créé les arbres, les hommes, les animaux pour se multiplier chacun selon leur espèce. Pour régner, pour dominer, pour couvrir la terre. La loi normale de Dieu, le fonctionnement normal de la création, c'est de se multiplier. Si ce n'est pas Satan, il dit, Dieu a dit, il n'y a pas de femme stérile dans ma maison. Ou bien, rien n'est stérile en Dieu. Dieu est la vie même. La mort, l'incapacité à produire, est une signature de Satan. C'est une forme de mort que d'être incapable de porter des fruits. Quand un arbre ne porte plus de fruits, c'est qu'il est un arbre mort en réalité. La mort est la signature de Satan. Quelqu'un qui toute sa vie n'a pas porté de fruits, c'est la signature qu'il a vécue avec Satan toute sa vie. Donc il ne peut pas aller au ciel, il ira en enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Lisez-les. Que ce soit Bible, Torah, Bible, tout ce que vous voulez, c'est les mêmes Écritures. Deuxième raison pour laquelle Dieu ne supporte pas ça. Les talents que vous avez là, Les dons que vous avez, ce ne sont pas des dons pour vous. Si Dieu a fait de moi un enseignant de la parole de Dieu, vous croyez que c'est pour moi qu'il a fait? Il a fait d'abord pour toutes les personnes qu'il va mettre sur mon chemin en espérant, en comptant sur moi pour leur parler de sa part. Si Dieu me donne un talent d'orateur et parce que je ne lui obéis pas, je gaspille ce talent, je vis comme un vulgaire gars, je vais plus vivre comme un vulgaire conseiller à la présence en train de niaiser toute ma vie. Donc j'aurais gaspillé la possibilité que Dieu m'a donnée de réveiller plein de morts vivants au Bénin, en Afrique et dans le monde. Dieu m'a dit, je vais donner naissance spirituellement à des milliards de gars. Imaginez, en force de courir avec des niaiseries dans une présidence, que je passe ma vie à ne rien foutre de ça. Dieu va me vouloir en fait de dire, mais cet imbécile m'a gaspillé 1 milliard d'âmes que je lui avais donné le talent pour réveiller. C'est ça qui élève Dieu. Il t'a donné une capacité de faire des affaires. Dans tes affaires, c'est quoi les affaires? Si je fais de l'immobilier, il y a plein de gens qui veulent des terrains, qui ne dorment pas, qui ont des soucis, qui vivent au tribunal, qui se tuent, qui se neutralisent, qui se battent, qui se maudissent à cause des terrains. Je t'envoie dans un secteur avec la capacité de le régler. Je veux éviter des morts dans les familles. Je veux éviter des guerres dans les familles. Je veux éviter des problèmes au tribunal. Tu es paresseux, tu ne fais rien. Tu as bloqué la bénédiction de Dieu. Dieu te punit pour ça. C'est quoi? Regardez, quand on prend la maladie que les gens détestent le plus, c'est la paralysie. Quand quelqu'un est paralysé, il préfère mourir souvent. Ou bien, pourquoi? La paralysie, c'est que ma tête est là. Je pense. J'ai envie de lever la main, ma main ne bouge pas. J'ai envie de lever mon pied, elle ne bouge pas. Mon corps ne me répond plus, mais ma tête pense. Je suis furieux de penser de ne pas pouvoir agir. La Bible nous dit que l'Église est le corps et que Christ est la tête. Nous sommes chacun les membres du corps de Christ. Christ, en tant que tête, a la puissance. Il a la volonté. Il veut bénir les gens. Il veut sauver les gens. Il veut donner la vie aux gens. Il veut donner la joie aux gens. Il lève sa main. La main voit une fourmi. Elle dit, envoie-moi. Envoie ton pied. Le pied ne bouge pas. Chaque Christ ou chaque membre, chacun dit Seigneur, pas moi, un autre, comme Jonas. Ça veut dire qu'il a beau être la tête, il est paralysé. Quand les chrétiens sont des fainéants, des chrétiens dimanche, Jésus est paralysé. Chaque don que Dieu a mis en vous, fait de vous un doigt, fait de vous une oreille, fait de vous un œil, fait de vous un nez, fait de vous un muscle, fait de vous quelque chose. Même votre anus a un rôle dans votre corps. S'il n'évacue pas 2 jours, vous êtes obligé d'appeler docteur. Ou bien, donc même si vous êtes l'anus du corps de Christ, le jour où vous ne travaillez pas, le corps de Christ est constipé, au bout de quelques jours, il va commencer à mourir. Si ton anus ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il veut te tuer. Dieu ne peut pas pardonner à ton anus d'être en train de vouloir te tuer. Si un chrétien ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il veut tuer le corps de Christ. Dieu doit châtier promptement. Tous ceux qui par leur paresse sont en train de vouloir tuer son corps en le paralysant. Regardez comment on est furieux quand on est paralysé. Et vous voulez paralyser Dieu. Dieu est omnipotent. Il a la puissance. Il veut. Il peut. Et vous voulez paralyser. Seigneur, pas moi. Laisse-moi m'occuper de mes affaires. D'abord, on va voir un jour. Il y a bon, hein. Occupe-toi de tes affaires, on va voir. C'est parce que les gens qui gaspillent leur talent, gaspillent les membres de Dieu, paralysent Dieu, bloquent la bénédiction. C'est quoi l'onction? C'est la capacité que Dieu vous donne de bénir des gens. L'onction n'est pas pour vous. Imaginez ce que Dieu m'a donné de savoir. Si je suis dans ma chambre, ça me sert à quoi? À rien. Ce que Dieu m'a donné ne me sert à rien si je ne vous le donne pas. Mais dès que je vous le donne, ça prend de la valeur. Si j'ai un don de guérison, si je vais guérir personne, ça ne me sert à rien. Je ne peux pas manger mon don de guérison. Mais dès que je guéris des gens, ça vaut des milliards. Un homme guéri est prêt à te donner des milliards. Mais si je garde mon don de guérison, je ne peux rien en faire, je ne peux pas le manger. Chaque talent que Dieu vous a donné vaut cela. Vaut des milliards pour les gens pour lesquels Dieu les a destinés. Quand vous êtes un paresseux, quand vous ne portez pas des fruits, vous bloquez la chaîne de bénédiction de Dieu. Vous bloquez, c'est-à-dire, vous laissez vivre dans la souffrance des gens que Dieu avait prévu que vous sauviez. C'est pour ça que vous finirez en enfer si vous êtes pauvre. Il ne faut même pas vous fatiguer si vous êtes pauvre. Vous irez en enfer. Vous avez peur? Vous avez encore l'âge d'être riche. Pourquoi vous avez peur de mourir pauvre? Vous croyez qu'on peut connaître Dieu mourir pauvre? Si on lui obéit, heureux êtes-vous si vous avez connu ces choses, pour peu que vous les mettiez en application. Quel homme de Dieu vous avez vu pauvre dans la Bible? Donnez-moi un personnage biblique qui était pauvre. Un des gars que Dieu a fait, qui Dieu a travaillé là, qui était pauvre. Donnez-moi un nom. Qui? Non, dans les personnages bibliques là, quel homme, quel grand homme de Dieu était pauvre? Alors pourquoi on enseigne la pauvreté à l'église? J'ai dû parler avec les pasteurs à Porto tout à l'heure, j'ai dû les chauffer proprement. Dieu merci, le Saint-Esprit les a touchés, ils ont compris. J'ai dit, arrêtez de dire des bêtises, vous perdez le peuple de Dieu, va vous réclamer le sang. Prenez les gens parce que vous ne pouvez pas les faire prospérer, vous voulez enseigner qu'il faut être pauvre. Quelle est cette bêtise-là? Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Si quelqu'un est son enfant, il ne peut pas être pauvre. Mais pour jouir de la bénédiction de Dieu, il faut obéir à Dieu. Si je suis riche, une femme sort avec moi, je peux la mettre dans ma voiture, quand je la descends, après qu'elle prenne 20, mes biens ne lui appartiennent pas. Si elle a trop, peut-être 20 000, 30 000 francs, c'est pour la soirée, ça va finir. Mais dès que quelqu'un devient ma femme, dès qu'elle s'appelle Madame Guidibi, tout ce qui m'appartient lui appartient. Si vous sortez avec Jésus seulement, vous allez à l'église de temps en temps pour dire comment vous allez à l'église. Vous n'allez pas avoir grand-chose. Vous flirtez avec Jésus, vous n'allez pas avoir grand-chose. Mais je vous ai dit Madame Jésus, c'est-à-dire l'épouse de Christ. Parce que Jésus dit que l'église est son épouse. Ce jour, quand vous êtes Madame Jésus, tous les biens de Jésus vous appartiennent. Vous commandez à la création au nom de Jésus. Quand mon épouse vient à Global, elle appelle Roméo le comptable. Elle dit, envoie-moi tel montant. Est-ce que Roméo peut officier? Roméo, si elle vient, elle dit, forcément, ça me voit. Parce que si elle est Madame Guidibi, mes biens sont ses biens. Mes biens sont ses biens. Elle a mon autorité. Si elle vient en disant, le DG a dit, il exécute. Si elle peut-être, il peut encore traîner un peu, s'il n'a pas dit, elle dit, mais si elle a déjà dit de me remettre tel montant, elle remet. Quand vous priez au nom de Jésus, vous dites à la création, Dieu a tout créé, tout lui appartient. Vous dites, mon Dieu a dit de me remettre tel. Est-ce qu'elle peut venir si elle est mon épouse, dit que j'ai dit de lui remettre tel et il va refuser, s'il est comptable? Priez au nom de Jésus, laissez Marie tranquille. Il faut arrêter de fatiguer Marie. Marie est une grande dame de Dieu. Mais elle ne vous a pas demandé, mandat à Kekonio, comme on dit. La dame a dit, je suis une fidèle servante du Seigneur. Point final. Elle n'est pas la femme de Dieu. Dieu n'est pas marié. Et les gens ont demandé à Jésus, si un homme a plusieurs femmes, il meurt, qui sera sa femme au ciel? Il dit, il n'y a pas de femme et de mari au ciel. Donc Dieu ne peut pas avoir de femme. Priez au nom de Jésus. C'est dit à la création. Celui qui est en moi, tu le connais bien, non? Il a dit, donne. La création vous obéit. Soit dit en passant, à propos de Marie, il faut peut-être que je vous explique techniquement un peu les choses. Marie n'est pas la mère de Jésus. Ou plutôt non, elle est la mère de Jésus. Elle n'est pas la mère de Dieu. Dieu ne peut pas avoir de mère. Si Dieu a une mère, donc c'est la mère qui a donné naissance à Dieu. Donc c'est la mère qui est l'alpha, ce n'est plus Dieu. Donc c'est la mère qui devient Dieu. Si Dieu a une mère, il n'est plus Dieu. Et c'est la mère qui est la créatrice. Ou bien, comment Dieu va avoir de mère s'il est Dieu? Donc, il n'est plus Dieu. Dieu n'a pas de mère. Jésus, le Fils de Dieu, fait homme, a une mère. Mais si on va regarder aujourd'hui les évolutions de la science, Marie n'est même pas la mère de Jésus. Elle est ce qu'on appellerait techniquement aujourd'hui la mère porteuse de Jésus. Vous savez ce qu'on appelle mère porteuse? Il faut aller chercher sur Internet, vous allez lire. Il faut vous cultiver. Les chrétiens n'ont qu'à se cultiver un peu. Une mère porteuse, c'est quoi? On prend son spermatozoïde, on prend son ovule, on va dans un laboratoire, on fait une fécondation in vitro, ça crée un œuf. C'est-à-dire l'embryon d'un enfant qui est de Hervé et de Madame. Ils n'ont pas envie de se fatiguer à ce qu'elle ait une grossesse, c'est trop compliqué. Lui, il a de l'argent. Il appelle la sœur là pour dire, bon, je te paye 1 million par mois, ça fait 9 millions. Un docteur va injecter dans ton utérus l'œuf de notre enfant. Tu vas le garder, on va louer ton ventre. On appelle ça une mère porteuse. Le bébé va grandir dans ton ventre. Il n'a pas tes gènes, c'est leur gène. Il n'a rien de toi. Si on doit l'analyser, je n'ai aucune trace de toi en lui. Mais comme un bébé doit grandir dans un ventre, un peu comme les éprouvettes, ou bien qu'on fait pour les incubateurs, qu'on fait pour les œufs là, on va le mettre dans ton ventre, les incubateurs. Tu vas incuber le bébé, il va grandir. Quand il faut naître, c'est toi qui vas faire l'accouchement, c'est pas elle qui va se fatiguer. Dès que le bébé naît, on te donne tes 9 millions, on prend notre enfant, tu fous le camp. Notre compte avec toi est défini, tu m'as oublié. Le bébé ne te connaîtra jamais, tu ne le connaîtras jamais. C'est notre enfant. Toi, on a loué juste au ventre pour ne pas se fatiguer pour le garder. La science fait ça couramment tous les jours. Ça veut dire quoi? Elle peut être vierge et avoir un enfant qui sort. Non, elle, toi plutôt. Tu peux être vierge, tu n'as pas besoin d'avoir des relations sexuelles. On t'a injecté dans ton utérus directement par le ventre un œuf. Tu n'as pas besoin d'être déviergé. Tu restes vierge, mais tu es enceinte. C'est C'est scientifiquement faisable tous les jours aujourd'hui. Tu n'es donc pas la mère de l'enfant que tu portes. Tu es la mère porteuse d'un enfant qui a été créé ailleurs. Si la science fait ça tous les matins aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui n'a pas pu faire de fécondation in vitro selon vous. Le Saint-Esprit a fécondé in vitro Marie. Dieu a loué son ventre pour porter le bébé Jésus parce qu'il fallait bien que Jésus naisse une femme. Dans la Bible, même dans la Bible, tout c'est écrit. Les gens disent, Jésus, il était en train d'enseigner, sa maman et ses frères sont venus l'arrêter. On dit, ta mère, là, qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas ma mère, ou bien? Vous dites que c'est une manière de parler. Est-ce que Jésus a dit de parler pour dire le contraire de ce qu'il veut dire? Il a dit quoi? Ce n'est pas ma mère. Il appelait comment? Femme. Il ne dit pas mère, hein? Il dit femme. Même dans la traduction Tom qui parle de Marie, là, ils ont dit femme. Pourquoi ne pas dire mère? Pourquoi dans la Bible Tom, on appelle Marie femme? Laisse-moi vous couper, ça ne veut pas. Il n'a pas dit mère. Vous croyez que Jésus ne comprend pas français? Ou bien il ne comprend pas alors qu'il a parlé? Pourquoi il n'a pas dit mère? Laisse-moi m'occuper des affaires de mon père. Et il dit femme. Et après, on dit ta mère. Là, il dit qui est ma mère? La Bible dit que toute vérité doit être confirmée au moins deux ou trois fois dans la Bible. Chaque fois qu'on essaie de dire heureux la femme qui t'a enfanté, c'est pas elle qui est heureuse. Ceux qui sont heureux, c'est les enfants de Dieu. Jésus a constamment nié le fait que Marie soit sa mère. C'est écrit, non, mais vous ne savez pas lire. C'est un chinois. Pourquoi vous l'appelez mère de Dieu? Alors que Jésus dit, ce n'est pas ma mère. Parce que vous ne pouvez pas imaginer comment il peut naître, ce n'est pas sa mère. Je viens de vous l'expliquer. Mère portée, ce n'est pas maman. Sa maman, c'est elle. Elle est la mère porteuse. Dieu n'a qu'un papa. Jésus, là, il a son père. Il est engendré par son père. Le Saint-Esprit l'a fécondé le vitro. Elle l'a porté. Ce n'est pas son enfant. Jésus vous a dit. Elle me a pas dit. Mais pourquoi vous dites ça? Faites tout ce qu'il vous dira. Jésus vous a-t-il jamais dit de prier Marie? Il a dit ça? D'où vous avez sorti ça? Ça vous plaît de faire ça? Bon, que ça vous plaît d'être béni par vos méthodes, si vous êtes Dieu? Il dit, il n'y a qu'un seul chemin, un seul, qui a été donné aux hommes pour venir à moi. Vous laissez ce seul chemin que je vous ai déjà expliqué, et vous allez fatiguer la servante du gars. Quand je loue le vent de quelqu'un, elle est ma servante, je l'ai payée pour garder mon bébé. C'est ma servante. Marie me dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon sa volonté. La pauvre dame n'a pas demandé tout ça là. Pourquoi les gens fatiguent Marie? Je vais vous expliquer. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que les gens ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et par le témoignage de leur parole. Tant que Satan ne vous empêche pas de vous concentrer sur l'œuvre de Jésus, il ne peut pas vous arrêter. Jésus, c'est un bazooka, c'est une bombe atomique spirituelle. Donc, ou il vous empêche de venir à Jésus, ou vous êtes là, il dit, bon, tu es là maintenant, tu vas être un Ivoirien là. Tu vas être là, tu vas chanter avec eux, tu vas danser avec eux, mais tu n'y verras que du feu. Tu ne comprendras rien aux vérités spirituelles. Tu ne comprendras rien au sang. Tu vas laisser le sang de Jésus, tu vas laisser tout, tu vas commencer à parler de l'eau de baptême, tu vas commencer à parler de Marie. Donc, tu es là comme si tu n'étais pas là. C'est quand les gens ne peuvent pas t'empêcher d'avoir un grand boulot, tu vas avoir un boulot à la baisse, tu vas gagner 3 millions par mois. Ils vont te faire un truc qui est plus bon. Tu as l'argent, tu sais pas ce que tu fais ton argent. Tu vas au VIP tous les week-ends, tu es le président T, tu achètes des bouteilles de whisky, de champagne. Tu vis très très bien, l'homme très très fort. Il ne peut pas t'empêcher d'avoir un grand salaire, mais il peut t'empêcher d'être heureux. C'est pareil avec Satan. Quand il ne peut pas empêcher les gens de connaître Jésus, ils m'ont dit que vous êtes chrétien, d'accord. Mais Jésus, bon, c'est bon, mais prier Saint-Si, Saint-Pou, Saint-Sa, Saint-Marie, il faut laisser Marie tranquille. Jésus est le seul nom qui a été donné par Dieu pour sauver les hommes. Quand je vous donne une machine, c'est moi qui dis comment on l'allume. J'ai dit de mettre du diesel dans le moteur, c'est un moteur diesel, mettez du gasoil. Tu dis, moi, c'est Payot qui me plaît. Mais Payot, mais ne viens pas me dire que ton moteur n'a pas démarré. Ce n'est pas vous qui fixez les règles. C'est Dieu qui fixe les règles. Si vous allez chez un docteur, je réexplique ça, il faut bien le comprendre. Parce que sans ça, vous ne serez jamais béni. Moi, je ne suis pas pasteur. Je ne vis pas d'une église, vous le savez très bien. Donc, je n'ai rien à cirer que vous croyez en Dieu ou pas. Vous le savez, non? Parfait. Donc, j'ai la liberté de vous dire la vérité parce que je ne vis pas de votre foi. C'est ça la différence entre beaucoup de personnes. Vous ne serez jamais béni. Je peux te mettre la main sur la tête pendant un an et t'entendre prophétiser. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne seras pas béni. Pourquoi? Personne ne peut bénir quelqu'un qui n'est pas soumis à son autorité. Je donne un exemple. J'ai déjà donné cet exemple hier, c'est parce qu'il y a des nouveaux, je reste. Pour vous comprendre, tellement c'est important. Si je suis un docteur, tu es malade, J'ai la capacité de te guérir, tu le sais. Tant que tu ne reconnais pas que je suis capable de te guérir, que tu ne viens pas me dire, docteur, soigne-moi, je ne peux pas te soigner. Même si je veux te soigner, première chose. Quand tu viens, je dis, Hervé, mets-toi nu, je vais t'ausculter. Tu dis, ah, docteur, moi, je n'aime pas me mettre nu. Hein. Si tu ne te mets pas nu devant moi, je ne peux pas savoir ce que tu as, je ne peux pas te soigner. Même si je suis capable. Tu finis par te mettre nu. Je te pose des questions, tu mens. Tu vas dire, je dis, qu'est-ce que tu as? Tu dis, non, juste comme ça, j'ai un peu mal au ventre. Alors que tu as la chaude pisse. Il faut dire la vérité pour te dire le médicament qu'il faut. Dès que tu me montres ce que tu as, je vais te dire le médicament pour la mal au ventre. Même si c'est ici, là, c'est pas là, hein. Chaude pisse, c'est plus bas. Non, c'est pas la peine de mentir au docteur. Ou bien, parfait. Tu finis par me dire la vérité. Je dis maintenant, bon, Hervé, tu vas te coucher, je vais t'anesthésier et je vais t'opérer. Si je fais bien, tu vas te réveiller. Si je fais mal, tu vas mourir. Il y a docteur, ça, là, je ne suis pas d'accord. D'accord, il faut partir, je ne vais pas t'opérer. Si tu n'acceptes pas, tu t'es abandonné complètement dans mes mains. Tu n'acceptes pas que je fasse de toi ce que je veux. Tu n'acceptes pas de m'obéir. Même si je suis le meilleur docteur du monde, je ne peux jamais te guérir. D'autres vont venir, je vais les guérir. Avant toi et après toi. Mais toi, je ne peux pas te guérir si tu ne te soumets pas entièrement à moi. Parce que la guérison suppose l'exercice d'une autorité qui n'est pas possible si tu n'y coopères pas. C'est pareil pour Dieu. Dieu veut vous bénir. Il est pressé de vous bénir. Il est fatigué de vous voir glorifier Satan par vos échecs. Il dit, soumettez-vous à moi. Reconnaissez mon autorité. Obéissez-moi. Je dis, viens, prends un compromis. Si je ne veux pas prendre de compromis, je préfère prier Marie. Oh, qu'est-ce qu'il faut aller prier Marie? Il ne faut pas me dire pourquoi je n'ai pas béni. Dieu use de patience en attendant que vous veniez lui obéir. Il dit qu'il n'est pas là à agir. Il vous attend, vous, que vous veniez lui obéir. Si vous voulez être béni, il faut que vous appreniez à obéir. À obéir. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Si vous n'avez pas de contrat avec Dieu, arrêtez de prier. Je vais vous demander une faveur. Dieu dit que c'est une abomination. Vous savez ce qu'on appelle abomination, cherchez dans le dictionnaire. C'est ça que les gens font, puis on dit crime contre l'humanité, on les amène à ce pays-là. Dieu dit que c'est une abomination que de le prier quand on est dans le péché. Et il dit dans les gens, c'est de la foutaise que de le prier quand on est dans le péché. Vous ouvrez les yeux, je vais vous expliquer ça. Moi, j'aime, Dieu m'a donné de pouvoir expliquer tout. Je suis ici. Ma fille sait que j'ai certaines valeurs. Sait que sa maman déteste certaines choses. Elle nous appelle et dit, maman, pardon, je veux te voir rapidement. J'ai un truc à te dire. Est-ce que tu peux m'aider d'arriver? Elle m'a dit, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, viens, je suis au corps de sport ici. Elle s'est dit qu'il y a un problème sérieux, elle veut aider sa fille. Sa fille débarque. Elle a des dreads sur la tête. Elle a un bâton de marijuana dans la bouche. Elle est venue avec le grand bandit que tout le monde connaît en prison là. À droite, il sent l'alcool. Et là, c'est un rastaman qui est là. Elle m'a même apporté micro-jupe avec transparent, décolleté, plongé en rouge. Elle s'est fait des piercings avec une bouteille de whisky en main. Elle lui a dit, maman, tu sais, il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas se fâcher. Bon, les gars du club, là, vous êtes là. Bon, ça va, je vais demander à Mpa de ne pas se fâcher. J'ai besoin de 100 000 francs rapidement, là. Et c'est juste pour un petit Jésus. Et vous êtes là tous. Je vais me dire, attendez. Je rêve ou bien elle est vraiment venue. C'est-à-dire qu'elle sait que je déteste tout ça. Si elle fait ça, qu'elle se cache. Qu'elle finisse, qu'elle se mette en ordre avant de venir à la maison. Mais si elle décide d'oser venir me voir devant mon peuple, dans cet état-là, pour me demander une faveur, c'est à quoi qu'elle a déjà venu me provoquer, de venir m'humilier. C'est une foutaise, c'est une provocation, c'est une abomination que d'oser se présenter devant lui quand on est plongé dans le péché pour lui parler. C'est de la foutaise, il m'a dit, mais je rêve vous baiser, petit, elle me cherche. Ou bien, c'est pas ça? Vous êtes dans le péché, on s'en fout, on fait de ça, je voulais ce qu'on veut, on vole, on ment, on tue, on complote contre les gens. Et puis le soir, on dit, Seigneur, je te remercie, il faut me donner un meilleur emploi, il faut augmenter mon salaire. Puis je vais me fiancer. Dieu dit, mais le petit là, il se fout de moi ou quoi? Hein? Je préfère ne même pas le voir, parce que si je le vois, ce n'est pas bon pour lui. Arrêtez de prier. Si vous n'êtes pas prêt à obéir à Dieu, hein, vous êtes en train de le chercher querelle. Il se demande si vous faites espoir de l'énerver, mais c'est que vous ne le savez pas. Arrêtez de l'énerver. Et l'autre chose, c'est quoi? Prier là, c'est plaider. C'est dire, Seigneur, regardez comment Moïse parlait. Regardez comment Abraham parlait à Dieu. Seigneur, j'ai un contrat avec toi. J'ai une alliance avec toi. Tu as dit à David que tu vas bénir ses enfants. Tu as dit à Si que tu vas faire ça. Tu as promis ça. Je suis leur enfant. Tu as dit que si je t'obéis, tu vas faire ça. Tu as dit que je sème, je vais récolter le centuple. J'ai fait tout ça. Tu as dit que si tu as oublié quelque chose, tu l'as rappelé. Je te rappelle que tu m'as promis tout ça. Je réclame que tu le fasses maintenant. C'est ça la prière. Demander à Dieu ce qu'on veut, ce n'est pas de la prière. Tu sais que ta maman déteste les micro-jupes. Tu viens dire, maman, achète-moi un micro-jupe. C'est que tu veux parler. Ou bien, elle fait la peine de venir demander à ta maman d'acheter un micro-jupe. Quand tu sais que... Des fois, vous voyez les gens habillés, vous dites, tu as fait que ta maman était à la maison quand tu es sorti. Ta maman que je connais là, tu étais à la maison, elle était à la maison quand tu es sorti. Parce qu'on sait que ta maman ne peut pas être là, tu vas le faire. Donc, vous savez que le gars déteste la chose. Est-ce que vous allez le voir pour lui demander de vous laisser à le faire? Ou bien, c'est logique? Prier, ce n'est pas demander à Dieu ce qu'on veut. La parole de Dieu dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et il précise, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce n'est pas de la foi que d'avoir de l'espérance en n'importe quoi. La foi, c'est l'espérance en ce que Dieu a dit. Dieu ne t'a pas dit que tu auras la même Mercedes que ton voisin parce qu'il a eu Mercedes. Ou est-ce que Dieu a promis que si ton voisin a quelque chose, il va te donner la même chose si tu es jaloux? C'est dans la Bible. Donc, prière dit, Seigneur, comme mon voisin là, le mari de ma voisine là, elle a acheté Mercedes, moi-même donne Mercedes. Jésus dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez pour assouvir vos passions jalouses. Ça là, c'est jalousie. Il faut mettre une croix dessus, je ne te donne pas. Prier, c'est demander à Dieu de faire pour vous ce qu'il a promis en lui prouvant que vous êtes éligible à ce qu'il a promis selon ce qu'il a dit. Il faut avoir un contrat avec Dieu et il faut pouvoir dire à Dieu, en vertu de tel article-là, je réclame telle chose. Si vous êtes éligible, Dieu va vous le donner. Moi, je suis exaucé à 90%. Et quand je ne suis pas exaucé, Dieu me dit pourquoi il ne m'a pas exaucé. Je vais dire, oui, j'ai dit ça, mais tu as oublié que j'avais dit à tel endroit ça. Va faire ça d'abord. Je dis, Seigneur, il n'y a pas de problème, attends-moi. Je couvre, je vais faire. Et je reviens. J'ai déjà fait ça, maintenant on fait quoi? Il va dire oui, mais attention, j'ai dit aussi tel. Je dis, c'est pas compliqué. C'est ça seulement, non, attends-moi. Ou Dieu vous exauce, ou il vous dit qu'est-ce qui bloque. Quand ton enfant te demande quelque chose, est-ce que tu te tais? Ton enfant dit, papa, achète-moi un pantalon. Tu vas l'ignorer. Tu dis oui, ou tu dis non. Tu dis oui, mais pas maintenant. Oui, si tu réussis à ton examen. Non, pas ce genre de pantalon. Non, pas maintenant. Attends que j'ai l'argent, tu lui réponds quelque chose. Les gens prient. Ils parlent à Dieu et ils sont surpris quand Dieu leur répond. Vous avez remarqué qu'on fait souvent ça? On parle à Dieu et quand quelqu'un dit que Dieu leur parle, il a dit, ah, Dieu parle aux gens. Il y a des gens, ils écrivent au Vatican pour demander au Vatican de confirmer que Dieu a pu parler. Vous n'avez jamais vu ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'êtes pas des bénévoles, c'est pourquoi vous n'avez jamais été à l'église, vous. Vous sauriez que dans certaines églises, quand Dieu parle, on demande au Vatican de confirmer que Dieu a pu parler. Parce qu'ils sont les secrétaires particuliers de Dieu et qui doivent passer par leur secrétaire pour parler aux hommes. Si vous parlez à quelqu'un depuis des années et ne vous répond jamais, c'est ou qu'il est sourd ou qu'il est muet. Ou alors il est fou, il ne s'intéresse pas à vous. S'il ne s'intéresse pas à vous, arrêtez de parler. S'il est sourd et muet, pourquoi vous lui parlez? Ou bien, si Dieu ne peut pas vous entendre, il ne peut pas répondre, pourquoi vous lui parlez? Et s'il peut entendre et répondre, pourquoi quand vous lui parlez, vous ne l'écoutez jamais? Quand je demande audience chez Yaïboni, vous croyez que c'est ce que je lui dis qui est important? Si c'est un vrai chef d'État avant que vous n'arriviez, son renseignement lui a fait une fiche sur qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez comme problème, qu'est-ce que votre entreprise a. Il sait avant que vous n'arriviez de quoi vous avez besoin, si c'est un vrai chef d'État. Un chef d'État n'a pas besoin de ce que vous dites pour savoir qu'est-ce que vous avez amené. Il connaît mieux votre situation que vous. S'il a un bon renseignement, Dieu dit, avant que vous ouvrez la bouche, je sais de quoi vous avez besoin. Quand tu viens, tu n'as pas à peine de parler beaucoup. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que lui dit. Tu parles, bon président, j'ai des problèmes. Il t'écoute, écoute. Bon, c'est tout. Bon. Intendant, donnez-lui un agrément, 3 ans à la douane. Bon, partez. Partez. Quand il a dit, intendant, mais il a dit, monsieur Bien, ministre des Finances, voyez, donnez-lui un contrat, 1 milliard, ça devrait être bon. Il a fini, la phrase a suffi. Tu peux te lever, partir. La phrase de Dieu, c'est là où les catholiques disent, ils ont raison. Dis seulement un mot et je serai guéri. Quand Dieu dit un mot là, c'est mieux que tout est bavardage. Prier, ce n'est pas parler. Qu'est-ce que vous voulez dire à Dieu qui ne sait pas? Qu'est-ce que vous voulez lui apprendre? Même si vous dites à Dieu, là, c'est souvent faux. Tu es pauvre parce que tu as passé tout autant à dire que tu vas être pauvre. Tu dis, Seigneur, je suis pauvre parce que le monde est Dieu, aide-moi. Donc, même ton diagnostic du problème est faux. Donc, ta demande de solution est fausse. Il y a un tas de village qui a fait de toi une petite statuette sur laquelle elle met un clou tout le matin. Tu es malade, tu dis oui, Seigneur, j'ai mal au ventre parce que j'ai trop mangé. Bon, il faut me guérir sur votre ventre là. C'est directement ce petit idiot là. On est en train de le brasser au village. Lui dit que c'est diarrhée. Donc, même ce que tu dis là n'est pas fiable. Si Dieu devait t'écouter, tu n'aurais rien. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous ne savons même pas toujours ce qu'il faut demander à Dieu. Tu n'es pas docteur, tu as mal au ventre. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as. Tu ne sais pas si c'est appendicite, si c'est, qu'on appelle, hépatite, si c'est... Tu ne sais pas. Tu sais juste que tu ne veux pas avoir mal au ventre. Tu vas avoir dit, docteur, il faut presque un médicament pour mon foie. Toi, tu es docteur. Et tu parles pour lui faire un discours, pour lui démontrer qu'il faut prendre un médicament pour le foie. Alors, toi, tu n'es pas docteur. Pourquoi vous voulez apprendre à Dieu à faire son boulot? Ou bien, Seigneur, il me faut si, donne-moi si, si tu me donnes un emploi, si tu peux multiplier mon salaire, je suis sûr que je ferai si. Tu n'es sûr de rien du tout. Quand quelqu'un a 100 000, bon, je vais commencer à voir, quand quelqu'un a 50 000, il va faire quand il va gagner 100 000, tous ses problèmes sont réglés. Quand il a 100 000, il comprend que c'est maintenant la voie vient commencer, que s'il n'a pas 500 000, ce n'est pas la peine. Quand il a 1 million, il croit qu'il lui faut 10 millions. Il a 10 millions, il va demander à avoir 20 millions. Il a 20 millions, il va demander 50 millions. Même quand tu as 10 milliards, tu as toujours des problèmes. Et les problèmes grandissent avec l'argent que tu as. Celui qui a des milliards, des problèmes en milliards. Celui qui n'a rien, des problèmes en centaines de francs. Un jour, quelqu'un m'a appelé pour dire de l'aider. Il a un grand problème. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, il a 200 000 francs de dette qu'il veut rembourser. Et j'ai dit, tu es plus riche que moi. Moi, j'ai des centaines de millions de dettes. Toi, tu as 200 000 de dettes. Donc, tu es plus riche que moi. À l'époque, j'avais au moins 150 millions de dettes. La personne a 200 000 de dettes, il me dit de le sauver. C'est vrai que je pouvais faire chaque jour 200 000. Je l'ai fait. Mais en réalité, elle était plus riche que moi à cet instant-là. Parce que quand quelqu'un de riche a des problèmes, il les a proportionnellement à son niveau. Non, ce n'est même pas vrai que si Dieu te donne tout l'argent que tu as demandé, là, maintenant tu seras heureux. Ce n'est pas vrai. Tu ne seras pas heureux. Vous demandez des choses à Dieu, il vous les donne, vos problèmes sont là tous les jours. Donc arrêtez de bavarder beaucoup. Découvrez Dieu. Signez un contrat avec Dieu. Obéissez à Dieu. Laissez-le vous bénir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais rien demander à Dieu. Mais il faut d'abord connaître les vérités avant de se presser pour demander des choses. Parce que ça, c'est aussi notre problème. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu, et quand il nous les donne, nous sommes encore surpris, nous ne sommes pas contents. Tu as prié pour dire, Seigneur, cette femme-là, je veux l'épouser, je veux l'épouser, donne-la moi, je suis heureux. Et dans ta maison, tu commences à prier pour être sauvé. Tu oublies que tu as prié pour que Dieu te la donne. Tu oublies ça, hein? Ou bien, on ne se rappelle plus quand ça chauffe, que cette femme qui a demandé à Dieu avait prié, hein? Mais il faut le laisser seulement. Heureusement que Dieu ne nous exauce pas toujours. Comme tout Père, il fait ce qui est bon pour nous. Est-ce que les chrétiens ne doivent fêter que la Pâque? Paul nous dit clairement, je me rappelle plutôt dans quel verset, qu'avec Jésus, il faut qu'on arrête de perdre du temps avec les jours, les années, les lunes, les soleils, les nourritures à manger ou à ne pas manger. Ça, c'est les choses du monde. C'est des détails. Le chrétien doit être en fait tous les jours. La Bible dit, réjouis-toi sans cesse. Que ton cœur soit toujours en joie. Loue l'Éternel tout le temps. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Je vous donne la paix, pas comme le donne le monde. Jésus nous dit de fêter tous les jours. Parce que nous sommes inscrits dans le livre de vie. Si tu veux fêter tous les jours, tant mieux, fête, Jésus est content. Tu témoignes de ce que tu as béni. Il y a effectivement des fêtes comme la Pâque qui sont des fêtes symboliques parce que Jésus est ressuscité. C'est la fête à laquelle Jésus a fait le plus grand de ses miracles, nous redonner la vie. Oui, c'est une fête. Mais il y a d'autres fêtes. La Pentecôte est une fête. C'est le Saint-Esprit qui est arrivé. Même on parle de la Saint-Valentin pour donner cet exemple. Oui, c'est peut-être une fête qui a une origine païenne. Comme la fête de Noël a une origine païenne. C'était la fête du Dieu soleil. C'est un Dieu païen. Que Dieu a frappé d'ailleurs en Égypte avec Moïse. On oublie ça. Le Dieu soleil, quand dans les dix plaies là, Dieu a assombri l'Égypte pendant des jours. Il avait frappé le Dieu soleil. Donc voilà, il y a des gens qui ont dit que le jour de fête de ce Dieu que Moïse a frappé là, est aussi le jour de naissance de Dieu. C'est pas grave, on appelle ça Noël. On est d'accord. Ce n'est plus un problème. Admettons. Quelle que soit l'origine païenne d'une fête, l'origine de quelque chose ne vous oblige pas à vivre la chose comme ça. Si le jour de Noël, les gens sont en train de célébrer Satan, c'est leur problème. Si vous avez envie de faire plaisir à vos enfants ce jour, faites-le. Si vous avez envie d'en profiter pour évangéliser les gens et leur enseigner le vrai Jésus ce jour, faites-le. Les gens célèbrent l'amour païen, l'amour mondain, l'amour adultère à la Saint-Valentin. Ce n'est pas bon. Mais le chrétien ne peut pas se mettre hors du monde. Nous avons dit qu'il faut être le sel et la lumière du monde. Est-ce qu'on peut saler une sauce sans y rentrer? Tu es le sel. Tu peux saler une sauce dans ton ventre, qu'elle est trop sale. C'est une sauce d'huile rouge. Moi, je n'aime pas l'huile rouge. Je suis le sel, je suis blanc. Je suis prêt à saler la sauce, mais ne me demandez pas de rentrer dans la sauce. Je ne veux pas être sali. C'est possible? pour saler une source, il faut rentrer dedans. La lumière. Il y a l'obscurité là-bas. Tu as lumière ici, tu dis que tu as lumière. Tu ne fais à rien. Pour que la lumière de la valeur, il faut qu'elle se mette là où il y a l'obscurité. Et dès qu'elle s'allume, la lumière arrive. Aussi bien le sel que la lumière que Jésus nous appelle à être suppose un contact avec le monde. C'est pour ça que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes en mission dans le monde pour éclairer le monde, pour saler le monde. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être dans le monde et mépriser tout ce que le monde fait. Quand tout le monde est en train de fêter, vous dites que la fête est toujours mauvaise. On va finir par vous prendre pour des grincheux, pour des gens attardés, ce qui est vrai. Ils sont en train de célébrer l'adultère le 25. Célébrer l'amour, profitez-en pour leur expliquer quel est le vrai sens de l'amour. Ils sont en train de célébrer le diable Noël. Profitez-en pour annoncer qui est le vrai Jésus. Un jour, on dit les bénédictions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Il n'y a pas un jour que Satan a créé. C'est Dieu qui a créé les 6 jours de la semaine et le 7e jour pour se reposer. Non, Satan n'a pas de jour. Tous les matins, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Fêtez toutes les fêtes si vous voulez. Créez même des fêtes si vous voulez. Il ne faut pas faire de l'idolâtrie des dates et des fêtes. Paul nous l'interdit clairement. Faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qui produit en nous le péché après la nouvelle naissance? Alors, hier, j'ai donné un exemple pour illustrer comment, quand nous naissons de nouveau, nous sommes transformés. Le Saint-Esprit est en nous. Un esprit, c'est à peu près l'équivalent d'un gaz de l'air. Si vous avez dans cette pièce votre vie qui était de l'air mauvais, c'est pour ça que la Bible dit qu'on veut être un parfum de bonne odeur pour Dieu. Vous voyez, quand on prie, on fait l'adoration, Seigneur, fais de moi un parfum de bonne odeur pour toi. Votre vie est comme un gaz. L'esprit, c'est gazeux. Généralement, avant de rencontrer le Seigneur, votre vie sent mauvais, elle est pourrie, elle est noire, ça sent vraiment le paix. Ce n'est pas du tout une bonne odeur pour le Seigneur. Nous avons montré hier que quand le Christ rentre en vous, quand vous annoncez l'évangile, quand vous annoncez la bonne nouvelle, la parole de Dieu qui est aussi esprit rentre en vous. C'est comme si on avait pulvérisé du parfum dans cette salle. Immédiatement, quelle que soit la mauvaise odeur qui est ici, quand je pulvérise du parfum, le parfum neutralise la mauvaise odeur et l'air devient ou neutre, ou en tout cas, selon l'intensité du parfum que j'ai mis, peut même commencer à être parfumé. Et donc, on ne pourra plus discerner dans la pièce l'air qui sentait mauvais et l'air parfumé. Tout l'air devient unique. Toutes choses deviennent uniques. Christ est en vous, vous êtes en lui. Vous êtes une seule personne, une nouvelle odeur, agréable à Dieu. Parce que vous êtes né de nouveau, que le Christ a parfumé votre esprit par son esprit. Quand l'esprit de Dieu rentre en vous, il ne peut pas être à gauche, vous êtes le ventre est à droite. L'esprit est gazeux, il se fusionne avec le gaz, il fait un. D'accord. Maintenant, l'esprit de Dieu est là. Il est en vous. Mais si entre temps, c'est parce que vous avez laissé un rat mourir et pourrir. Vous avez mangé du pétail il y a 3 jours, vous avez laissé ça sous le lit. Il y a d'abord plein de choses pourries. J'ai mis le parfum. La mauvaise odeur est partie. Mais il y a des choses qui sont toujours dans votre vie, qui sont en train de pourrir. Et dégage tous les jours la mauvaise odeur. Si tous les matins vous mettez du parfum, on pourrait ne jamais sentir que les mauvaises choses sont toujours là. Mais dès que vous arrêterez de mettre du parfum, les mauvaises odeurs vont progressivement reprendre le dessus. Parce que la source du mauvais en vous n'a pas été détruite. Quand Christ est mort à la croix, ce qu'il a gagné pour nous, c'est la victoire sur la nature de péché. C'est-à-dire quoi? Avant Christ, même si tu ne veux pas pécher, tu ne peux pas ne pas pécher. Le péché était la nature de l'homme. L'homme ne pouvait même pas, regardez, les Juifs, ils ont tout fait, ils vont, ils pêchent, ils reviennent. L'homme ne pouvait pas humainement résister au péché. C'était notre nature. De la même manière qu'un arbre produit des fruits, on produisait le péché de manière naturelle et irréversible. On ne pouvait même pas faire autre chose. Regardez, depuis les Noé qu'on sort, Dieu a tout fait. Il a envoyé l'eau, il a envoyé Sodome et Gomorre. Quelques temps après, il retourne au péché. Parce qu'ils étaient sous une loi qui faisait de des péchés forcés. Ils étaient esclaves du péché. Ils ne pouvaient même pas échapper au péché. Christ, en reprenant l'autorité à Satan, a donné à l'homme à nouveau le libre arbitre sur le péché. Avec Christ en vous, un, vous savez quand vous péchez. Parce que le Saint-Esprit vous donne l'alerte. Le Saint-Esprit siffle. Vous allez avoir votre... Quand vous êtes chrétien, vous voulez faire certaines choses. Vous vous sentez en même temps stressé, vous ne vous sentez pas bien. Vous sentez que vous perdez la paix. Quand vous marchez avec le Saint-Esprit, dès que vous déconnez, vous perdez votre paix. On dit la paix de Dieu dans notre cœur est l'arbitre du Saint-Esprit. Quand vous marchez selon Dieu, quand vous voulez faire un péché, le Saint-Esprit siffle. Il vous alerte. vous perdez la paix. Quand vous êtes en paix, c'est que Dieu dit, allez-y. Quand vous perdez la paix, arrêtez-vous. Qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle décision je viens de prendre? Dieu vient de me signaler que quelque chose s'est passé. Ça va commencer à clignoter rouge sur le tableau. Check. Arrête-toi. La paix. Quand on dit stressé, là, pourquoi le monde est stressé? Le stress, c'est l'indicateur tableau. C'est check. C'est un peu check le jour. On fait tout check, reste. Pourquoi? Parce que le monde multiplie les désobéissances. Or, tant que vous désobéissez, le Saint-Esprit vous convainc de désobéissance par le fait que vous perdez la paix. Vous me suivez? Vous perdez la paix. Ça veut dire qu'avec Christ en vous, vous avez le pouvoir de choisir maintenant que vous, là, vous ne voulez plus pécher. Et là où avant, vous n'aviez pas la capacité de narguer le péché, vous pouvez le narguer victorieusement parce que ce n'est plus vous seulement. C'est Christ qui vous donne cette capacité-là. Lui, il a déjà vaincu Satan. Donc maintenant, s'il est en vous, ensemble, vous pouvez vaincre Satan. Avant, tu fumais. Tu n'imaginais même pas pouvoir arrêter, même si ça te plaît. Quand Christ est en toi, tu peux dire, Seigneur, je ne veux plus fumer. Éloigne cela de moi. Fais-moi perdre cette envie. Si tu le veux vraiment, et tu fais un peu d'effort, ce n'est pas toi, c'est lui qui va te faire t'étumer. Je connais des gens qui fumaient. Leur maman a prié pour demander à Dieu de l'arrêter. Un jour, ils ont pris une cigarette, ils ont eu des nausées, ils ont vomi. Chaque fois qu'il voit une cigarette, il vomit en même temps. Ça lui plaît de fumer, il ne peut plus finir. Dieu a fini tranquillement, sans aucun effort, ça part avec la cigarette. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Quand il veut vous prendre quelque chose, là, il le prend tranquillement, sans aucun pétard. Si vous le laissez fonctionner avec vous, si vous le laissez téléguider votre vie, si quand il vous parle, parce que le Saint-Esprit ne vous violera jamais, il ne va jamais prendre quelqu'un de force pour le bénir, il va vous dire, fais pas ça, va à droite, va à gauche, non, arrête-toi, avance. Si vous suivez ses consignes, il va vous orienter, il va vous aiguillonner vers le bonheur. Mais si vous faites comme vous voulez, il va insister un peu et il va finir par vous laisser vous perdre. C'est l'obéissance au Saint-Esprit. Vous naissez de nouveau, on a parfumé votre vie. Vous devez chercher sous vos lits les crânes humains, les talismans, les bagues magiques, les médailles miraculeuses, les je ne sais pas quoi. Toutes ces formes d'idolâtrie-là, c'est des choses qui pourrissent dans votre vie. Balayez-les. Sinon, au bout de quelques temps, c'est le rat qui est mort. Ça va recommencer à sentir. Vous devez donc aussi connaître la parole de Dieu et lui obéir. Et demander à Dieu la force de lui obéir. Vous ne pouvez pas faire les choses par vous-même. Quand vous naissez de nouveau, considérez que vous êtes comme une marionnette. Ce n'est plus vous qui vivez. Dieu tire les ficelles comme une marionnette. Vous êtes un petit cavi de la main de Dieu. Abandonnez-vous à lui, il vous conduit à bon port. Mais si vous ne vous abandonnez pas à lui, il ne peut pas vous conduire à bon port. Mais dans tous les cas, nous ferons un séminaire spécial sur la sanctification. Comment savoir qu'on obéit à Dieu? Je dirais de deux manières. Un, Dieu bénit ceux qui lui obéissent comme tout parent qui récompense un enfant qui obéit. Le bonheur, la paix, la joie et les bénédictions dans votre vie sont souvent des signes que vous avez obéi à Dieu. Attention, il y a une différence entre des biens matériels suivis de chagrin et la bénédiction. Il y a des gens qui sont milliardaires, mais vous les voyez comme ça à la télé, vous voyez qu'ils ne dorment pas. Vous ouvrez leur sac, c'est des médicaments. Leur tiroir, c'est des médicaments. Ils ne dorment pas. Se réveillent le matin, ils doivent danser sur le pied droit pendant quelques minutes. Ils doivent aller au village. Ils ne vivent pas. Leur vie ne leur plaît pas eux-mêmes. Ils ont tout, mais ils n'ont rien en réalité. Ce n'est pas ça que je dis. Des gens qui ont les choses, qui dorment bien, leurs enfants ne sont pas malades, ils n'ont pas de soucis. Ils vivent bien, ils sont heureux. Ils grossissent comme moi, parce que les gens disent, je grossis. Je n'ai pas changé ma nourriture. Hein. Quand vous avez la paix de l'esprit, là, vous grossissez. Tout simplement, vous avez les choses, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Et sans effort. C'est le premier signe. Le deuxième signe, je l'ai déjà dit ici, personne ne peut faire la différence entre le vrai et le faux s'il ne connaît pas le vrai. Si tu ne connais pas la loi, comment tu vas savoir que quelqu'un a violé la loi? Nous violons tous les jours des lois parce que nous ne connaissons pas la loi. Or, on nous dit même dans le monde que nul n'est censé ignorer la loi. Vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez lire la Bible, méditer la Bible. Si vous êtes trop paresseux, comme la plupart de nous pour le faire, lisez, il y a plein de livres chrétiens là sur différents sujets. La prospérité, le couple, le sexe, la santé, la famille, le Saint-Esprit, le combat, la guérison. Vous avez des livres sur tout. Le mariage, tout est là. Quand vous lisez ces livres-là, ils font une étude panoramique de la Bible, commentée, expliquée autour d'un sujet. Vous pouvez devenir un expert de ce que la Bible dit sur un sujet en prenant de ces livres. On a là pour des millions de livres. Il y a presque pour 10 millions de livres là. Pourquoi? Oui, ça n'a pas l'air. Allez à John Migan, vous allez voir. Livre à 45 000, 20 000, 25 000. Il y a pour des millions de livres là. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus à 3 ans. J'ai été formé aujourd'hui des pasteurs à Porto-Vaux. Quand j'ai donné ma vie à 3 ans, ils ont... Ah. Dieu a dit, il va prendre les choses les plus viles pour confondre les sages. Il a dit, il va prendre les enfants pour confondre les sages. Parce qu'il aime les gens qui ont un cœur qui lui appartient. Quand moi j'ai de l'argent, je vais, j'achète 1 million de livres. Les gens disent que je suis fou. Est-ce que je suis fou? On le verra ensemble dans quelques années. Donc, vous devez connaître la parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas le vrai, on peut vous vendre le faux pour du vrai. Même quand vous entendez une prophétie, si par exemple vous êtes dans votre chambre, Dieu dit, bon, mon petit, va voler. Si tu voles ces 3-4 personnes-là, tu vas être riche. J'ai pour plan que tu aies volé. Il faut dire, Dieu, ça ne peut pas être toi. Mais alors, tu fais une blague. Tu ne te contredis jamais. Et tu as écrit que je ne volerai pas. Donc, tu ne peux pas être en train de me dire aujourd'hui de voler. L'une des manières de savoir si on obéit à Dieu, c'est de connaître la parole écrite de Dieu et de passer à l'épaule de cette parole écrite toute autre prophétie qu'on reçoit. C'est un peu comme on fait avec la Constitution. Le président, les gens peuvent prendre les lois qu'ils veulent. Mais dès qu'on prend une loi, on fait le test de constitutionnalité. Est-ce qu'en le confrontant à la Constitution, c'est cohérent ou pas? Si ce n'est pas cohérent, on rejette, tu reprends. La Constitution ne change pas. La Bible est la Constitution de la vie. Toute chose qu'on vous dit que Dieu a dit, si c'est contraire à ce qu'il a écrit, c'est faux. Dieu ne se contredit pas. Ça peut ne pas être contraire, ne pas être vrai. Mais si c'est contraire, c'est que ce n'est déjà pas vrai. Donc vous devez connaître le vrai pour discerner le faux. Où se trouvent l'âme et l'esprit dans le corps? Écoutez, l'âme et l'esprit sont intangibles. C'est comme si vous demandez où est l'air ici. Où est l'air ici? C'est là, ou bien c'est là, ou bien c'est dans la bouteille, ou bien c'est où? L'air est partout. L'esprit est en vous. Il est entièrement en vous. Donc ne cherchez pas à savoir où il est. Vous raisonnez cette question, c'est comme si vous voulez raisonner l'esprit comme une chose physique qui ne peut qu'être un endroit. Je vous ai dit tout à l'heure, quand je dépose cette bouteille-là, elle ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Mais mes pensées peuvent être à 1000 endroits à la fois. L'esprit n'a pas de limite temporelle ni physique. C'est la matière qu'il a. Vous voulez savoir où est l'esprit dans votre corps, comme si l'esprit était une matière. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêtez de prendre Dieu pour de la matière. Dieu est esprit. Comment obéir à Dieu? Connaître ce qu'il a dit et faire ce qu'il a dit. Et dans le fond, c'est plus facile d'obéir à Dieu que de désobéir à Dieu. En réalité, on va faire un séminaire dessus, il est beaucoup plus facile d'obéir à Dieu que de désobéir à Dieu. Partez simplement du principe. Moi, j'ai découvert une chose. On a du mal à obéir à ses parents quand on pense qu'ils donnent des règles juste pour nous fatiguer et pour montrer qu'ils sont des parents. Mais le jour où vous comprenez que derrière chaque règle d'un père ou d'une mère, il y a une volonté de vous éviter un malheur ou de vous pousser vers un bonheur, vous obéissez avec joie et zèle. Quand vous allez comprendre, et c'est pour ça que j'essaie de vous expliquer la parole de Dieu, tout ce que Dieu a dit de faire là, il sait pourquoi il a dit. Et c'est pour votre bien. Si vous savez que quelque chose a été dit pour votre bien, c'est facile de lui obéir parce que vous voulez être heureux. On va revenir, on va faire un séminaire bientôt sur les couples. Regardez aujourd'hui, les femmes sont émancipées. Toutes les filles ont beaucoup de copains, mais elles n'ont plus de mari. Vous avez remarqué que plus elles ont de copains, plus elles n'ont plus de mari. Et les hommes aussi, plus on a de copines, plus on n'a plus de femmes. Pourquoi? C'est écrit. Le gars n'a rien payé. Tu as déjà tout livré. Gratuit. Je viens à un puits de pétrole. Je prends tout le pétrole. Et maintenant, venez négocier avec moi le prix que je vais payer pour être propriétaire du prix du pétrole. J'ai déjà puisé tout le prix du pétrole. Pourquoi je vais venir payer pour acheter le terrain via le pétrole? Le gars qui sort avec toi, il n'a jamais couché avec toi. Il est pressé de payer la dot, de se fiancer pour découvrir qu'est-ce qu'il a. Il est prêt à tout jusqu'à avoir. Il faut en profiter pour tout sceller. C'est pas pour Dieu n'est pas bête en disant de ne pas se donner à quelqu'un avant son mariage. Quand le gars vient, je connais des gens. Ils ont rencontré quelqu'un à 17h. À 18h, il était dans son lit. Vous dites, tu vas me dire que tu ne sais pas. N'importe quoi. N'importe quoi aimé. Quand vous rencontrez quelqu'un à 17h, vous êtes dans son lit à 18h. Il va venir parler d'autres avec vos parents. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez lui proposer qu'il n'a pas encore? Les problèmes? Payer la coiffeuse, la couturière, gérer votre humeur. S'il n'a pas besoin de payer tout ce prix-là pour avoir ça, et c'est difficile à la fois, pourquoi il va se marier? S'il n'est pas bête. Conclusion, vous avez beaucoup de copains, mais vous n'avez plus de mari. Les femmes émancipées, docteurs, professeurs, ministres, et finalement se suicident parce qu'elles n'ont plus de mari. Ou bien, les femmes sont de plus en plus malheureuses parce que de plus en plus émancipées. On y reviendra. On ne dit pas de rester villageois. On dit de rester obéissant à Dieu. Un enfant qui obéit à son père n'est pas villageois. Mais c'est parce qu'un enfant obéit à son père que son père s'occupe de tout dans sa vie. Si quelqu'un se rebelle contre son père, il s'est rebellé contre la bénédiction. Dieu a demandé aux hommes de s'occuper de tout dans la vie de leur femme. Si une femme ne le fait pas, elle s'est rebellée contre la bénédiction. Finalement, elles ont fabriqué des gigolos dans Cotonou. Elles sont vieilles, elles sont riches, et nos frères-là ont commencé à être des gigolos. On sort avec les filles, vous le savez, on sort avec les filles parce qu'elle a de l'argent. Vous n'avez même pas honte des garçons de mon pays, devenus des vulgaires gigolos. On reviendra sur tout ça. C'est la malédiction. Sachez que quand vous couchez avec une personne, vous prenez tous les esprits mauvais qu'il y a en elle. Les esprits mauvais qu'elle a accumulés avec tous les hommes qu'elle a fréquentés. Les esprits de pauvreté, d'échec, de mort subite. Quand je vous ai dit, quand on mélange l'air là, un gaz avec le gars, ça devient un. Quand vous couchez avec, c'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un, par exemple, 41 hommes, elle devient folle. Si tu accumules les esprits mauvais qui a chez 41 personnes avant, quand tout ça se concentre sur toi, tu deviens fou parce que la folie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est possédé par une légion de mauvais esprits, la Bible dit. Beaucoup de gens sont socialement fous parce qu'ils ont été cherchés de manière exponentielle des combinaisons dangereuses de mauvais esprits. Regardez les jeunes hommes. Quand ils commencent leurs affaires, ils prospèrent. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils commencent à sortir avec toutes les filles qu'ils ne pouvaient pas avoir, qui n'ont pas d'argent. Rapidement, ils sont brisés. Et deviennent, ils chutent. Satan applaudit. Continuez d'être des gigolos. On parle des femmes souvent. On ne sait pas qu'il y a des gigolos. Ils commencent à avoir plus de gigolos que de prostituées à côté de nous. Il faut avoir honte, mes frères, là. Vous savez de quoi je parle, non? Ils se connaissent. Ou bien, ah, la maman, là, elle est bien. En tout cas, moi, elle paye tout. C'est elle qui m'a acheté ma moto. Gigolo, va. Vous prenez de la malédiction. Après, vous fondez des familles, vous n'avez plus rien. Faites attention, hein. Tout se paye. Je ne vais pas terminer trop tard. Tous les cas, les autres questions sont là, on va y répondre au début du séminaire la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais parler sur le chômage. En certification chômage, qui veut certification, qui veut chômage? Vous ne voulez pas être certifié, vous voulez avoir le chômage. Non, on va faire la certification la semaine prochaine et la semaine d'après, on fera le chômage. Parce que si vous n'êtes pas certifié, vous n'avez pas trouvé d'emploi. Vous trouvez un emploi, ils vont vous virer. Ou bien? Bon, non, on va se certifier la semaine prochaine. Et la semaine d'après, on va parler de chômage. D'accord? Mais dans tous les cas, dimanche, on parle de prospérité déjà. Dimanche au culte à 19h. D'accord? On va s'en arrêter là.
Abba Père, Dieu de gloire, je veux te dire merci. Merci parce que chaque jour, tu nous tiens par la main. Merci parce que chaque jour, tu guides nos pas. Merci parce que chaque jour, Seigneur, ton esprit se manifeste en nous. Qu'il te plaise, Seigneur, que dans toutes nos épreuves, dans toutes nos tentations, que tu ne nous abandonnes point, mais que ton Esprit Saint soit là pour nous rappeler, Seigneur, la bonne chose à faire selon ta volonté au nom de Christ Jésus. Qu'il te plaise, Seigneur, même tout bas dans nos pensées, dans nos réflexions, des choses qui ne glorifient pas ton nom. Laisse, Seigneur, que la force spirituelle, que ton onction nous guide dans le nom de Christ Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, que ton sang soit une toux forte, Seigneur, autour de nous, en face de nos péchés, dans le nom de Christ Jésus. Éternel mon Dieu, laisse que ta droite soit toujours sur nos vies. Accorde-nous toujours la crainte, Seigneur, de ton nom, la crainte de ce que tu es, éternel mon Dieu. Accorde-nous toujours, Seigneur, de demeurer dans ta présence pour que toutes sortes de bénédictions que tu as prévues pour nous, parce que tu as dit que tu connais les projets que tu as sur nous, ce ne sont pas des projets de malheur, ce ne sont pas des projets de pleurs, ce ne sont pas des projets, Seigneur, de la pauvreté, ce ne sont pas des projets d'échec, mais ce sont des projets, Seigneur, qui nous élèvent, de bons projets dans nos vies, qui te plaisent, Seigneur, que par cette sanctification, par le Saint-Esprit en nous, Seigneur, que nous demeurions forts, Seigneur, que nous demeurions toujours fermes dans notre position, celle, Seigneur, de te suivre dans le nom de Christ Jésus. Éternel Seigneur, Pierre va dire, où irons-nous si nous te laissons, Seigneur? Et David va nous dire, Seigneur, où pourrons-nous fuir loin de ta face lorsque l'obscurité devient lumière pour toi, Éternel? Que dans nos difficultés, que dans nos péchés, que dans nos tentations, Seigneur, que ta lumière luise toujours pour nous délivrer dans le nom de Christ Jésus. Qu'il te plaise parce que tu as dit que ton sang, Seigneur, est là pour effacer les actes dont les ordonnances nous condamnent. Qu'il te plaise que nos vies de péché, nos vies remplies de boue, nos vies remplies de choses qui ne glorifient pas ton nom, laisse que ton sang nous lave, nous purifie, nous justifie dans le nom de Christ Jésus. Éternel mon Dieu, accorde-nous maintenant, Seigneur, la ferme assurance de croire et de marcher selon ta parole dans le nom puissant de Christ Jésus. Qu'il te plaise, Seigneur, que cette parole ne reste pas seulement gravée sur la table de nos cœurs, mais que pour peu, éternel Dieu, que tu nous aides à pouvoir les pratiquer pour être des térébènes de justice, pour servir à ta gloire dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, tu nous connais mieux. Devant toi, nous sommes nus. Parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Qu'il te plaise de nous modeler comme l'argile entre les mains du potier, pour te plaire dans le nom de Jésus. Faire de nous des vases d'honneur, Seigneur. Faire de nous des vases d'honneur qui glorifient et qui témoignent de ta grandeur chaque jour au nom de Jésus. Ne permets point, Seigneur, que nous soyons des chrétiens remplis de maladies, que nous soyons des chrétiens remplis de faiblesses, que nous soyons des chrétiens coqueluches, Seigneur. Mais permets que nous soyons des chrétiens forts, avec assurance, marchant pour ta cause, qu'ils soient des témoignages vivants pour toi dans le nom puissant de Christ Jésus. Tu as dit que notre allée, Seigneur, sera veillée par les anges et que notre retour aussi sera guidé par eux. Qu'il en soit ainsi maintenant dans le nom de Christ Jésus. Raccompagne chaque personne ici, Seigneur, dans sa demeure respective, saint et sauf dans le nom puissant de Jésus. Que ce qui constitue pour eux des interrogations, laisse que ton Esprit Saint cette nuit, Seigneur, les visite pour leur accorder encore cette vérité, pour les éclaircir encore davantage. Parce que comme le semeur, Seigneur, nous avons semé, nous avons arrosé, mais ce n'est pas à nous forcément de faire grandir, Seigneur, ces plants que nous avons plantés, mais c'est à ton Esprit Saint, Seigneur, de permettre que cela gème, mais permet que cette parole gème dans leur cœur au nom de Jésus. Et que, Seigneur, plus tard, ils puissent impacter leur génération, qu'ils puissent impacter leur famille, qui puisse imparter le monde, qui puisse imparter le pays. Et je prie dans le nom de Christ Jésus que cet endroit, Seigneur, soit un endroit où sort des lions maintenant de la tribu de Judas. Que ce soit un endroit où sort des chrétiens vivants. Que ce soit un endroit où sort des chrétiens matures. Que ce soit un endroit, Seigneur, où tu nous remplis, que tu nous charges, que tu nous équipes maintenant pour ta cause dans le nom de Christ Jésus. Merci parce que tu redimensionnes nos vies. Tu as dit tout ce que nous te demandons et que nous croyons que nous l'avons déjà reçu, Seigneur. Nous pouvons maintenant te lever vers toi des actions de grâce. C'est pourquoi mon âme te bénit, mon esprit te magnifie. Et je vais te dire infiniment merci, Seigneur. Je te suis entièrement reconnaissante parce que je crois fermement que ce que je t'ai demandé par cette prière, Seigneur, c'est ce que tu nous as promis. Et je les verrai s'accomplir maintenant, Seigneur, dans le nom puissant de Christ Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Fouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229-94-01-54-26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe? tristes.